Warning. Si vous n'avez pas encore vu le film qui suit et que vous ne voulez pas que l'intrigue vous soit dévoilée, arrêtez ce podcast maintenant. On vous aura prévenu.
You're not taking me to fun, are you certain?
No, I'm not. Seems about the only honest thing you said to me so far is your name. It says here you're a deserter. It says here you were caught impersonating an officer. It says here you'd likely try to make an outside call, even compromise security of this operation. Anything to get out of combat duty tomorrow. But that's not gonna happen. Ever. Private Cage.
Уж не собираетесь ли вы учить меня смыслу жизни?
Une rupture du continuum espace-temps a produit une nouvelle séquence chrono-événementielle.
The robots are coming.
I want more life. Fucker.
24 quarks secondes. Nous sommes le 2 août 2015, bonjour à tous et bienvenue au 37e épisode de 24 quarks secondes, le podcast des mordus de cinéma de science-fiction lors duquel nous repassons à travers des films et séries que nous avons aimés ou pas. Je suis Nicolas Petzilas et avec moi Marie-Louise Gariepi.
Salut.
Et vous pouvez retrouver tous les épisodes de ce podcast sur notre site internet 24quarks.com, c'est 24quarks.com, et sur iTunes. Et si l'envie vous prend de réagir à une discussion, de commenter, de nous faire des suggestions, etc., ben, vous pouvez aussi nous contacter par courriel à l'adresse 24quarks, toujours 24quarks@gmail.com. Et on continue notre série sur le voyage dans le temps avec un film qui, à mon avis, est un peu franchement sous-estimé. Ça a été une sortie un peu minable. Il n'a pas fait un gros score la première fin de semaine. Et il s'agit de Edge of Tomorrow, le deuxième film de Tom Cruise, deuxième film de science-fiction de Tom Cruise, droit derrière Oblivion.
Ben oui. Comme l'année suivant Oblivion.
Ouais, et puis, c'est ça, réalisé par Doug Liman, qu'on connaît notamment parce qu'il a fait le premier Bourne Identity, et puis Mr. and Mrs. Smith, là où nos chers Brad Pitt et Angelina Jolie
ont joué ensemble. Je ne l'ai pas vu encore.
Je ne sais pas s'ils étaient déjà un couple ou s'ils sont devenus un couple à ce moment-là. Maintenant, ils étaient déjà un couple.
Oui, ça faisait longtemps qu'ils étaient un couple.
Moi, je ne suis pas dans les gossips, moi, je m'en fous de tout ça. Voilà. J'ai pas de plug cette semaine.
Moi j'en ai. Donc c'est un autre film. Donc vous avez sûrement entendu parler. C'est Turbo Kid de la gang des Roadkill Superstars. C'est un collectif de 3 réalisateurs. Et ce sont des gens en fait super sympathiques. C'est Roadkill Superstars que j'ai rencontré. À Fantasia.
À Fantasia, c'est ça.
Exactement. Donc, il y a une fille qui est Anouk Whistle, François Simard et Johan Carl Whistle. Son frère et sœur, hein? Anouk Whistle. Johan Carl Whistle. Pour moi, voir ce film-là, t'entends parler d'un film, c'est un phénomène Fantasia. Il y a toute une histoire derrière la création de ce film-là. Ça a été pitché la première année du marché frontière de Fantasia il y a 3 ans, si je ne me trompe pas, par un producteur nouveau. Ça a commencé en fait par T, qui était une sorte de concours à la télévision, de faire des courts-métrages. Je crois que c'est la télévision. Je connaissais pas cet événement-là, ce concours-là. Et puis, donc, ils ont fait un court-métrage qui s'appelait Turbo Kid, donc, que certains d'entre vous ont sûrement vu. Là. C'était un petit phénomène viral sur Internet. Ça avait passé à Fantasia, probablement à Space. Ça avait fait le tour de tous les petits festivals geeks du genre. Et à partir de ça, ils ont intéressé du monde, dont le réalisateur de Hobo with a Shotgun.
Ah, oui.
Qui est producteur, d'ailleurs, sur Turbo Kid.
OK. Son nom va me revenir. Il m'échappe, mais ça va me revenir.
Eisner. Ensuite, il y a un producteur néo-zélandais qui s'est intéressé au projet. Et de fil en aiguille...
Jason Eisner.
Ouais. Et de fil en aiguille, plein de gens se sont greffés à ce projet-là, dont Anne-Marie Gélinas, qui a été la productrice d'un de nos films de science-fiction québécois, qui est Mars et Avril. Mm-hmm. Qu'un jour, il faudrait qu'on fasse. Ouais. Moi, je ne l'ai pas vu encore mars et avril, mais Olivier, j'avais vraiment aimé ça. Puis la critique était assez mauvaise. Mais moi, j'aimerais ça en parler juste pour le phénomène de faire un film. On a aussi Projet M qu'on devrait faire un jour comme film québécois. Peut-être un spécial film québécois. Même si on
ça serait cool.
Même si on a parlé de Projet M quand même sur le podcast régulièrement là, dans le temps. Mais là, Écoute, c'est vraiment l'année Turbo Kid, selon moi, au cinéma québécois, au cinéma canadien, je dirais même. Et peut-être, on va voir comment ça va être, la réception va être dans le reste du monde. Ce film-là, quand t'as tout le buzz qui vient autour, puis là, tu connais les gens qui l'ont fait, t'as vu leur court-métrage, puis tu te dis, j'étais sûre que je vais aimer ça, mais t'as comme peur d'être déçue. Puis non, tu sais, moi, j'ai vu le film à minuit à Fantasia. J'étais fatiguée. Je suis fatiguée à minuit. Je suis pas quelqu'un qui se couche si tard que ça. Ouais. Et j'ai littéralement embarqué dans le film. Et je suis retournée le voir le jour de la première officielle au cinéma du Parc. Écoute, c'était... la salle réagissait, c'était plein. C'est vraiment un film brillant. J'ai amené des amis à moi qui ont adoré... aller le voir, là, tu sais, parce que c'est facile de dire...
Maintenant, il est en salle, là.
Oui, il est en salle. Ben, je pense qu'il est encore en salle au Québec. Ça dure pas longtemps, il est sorti en salle maintenant. Donc, s'il est dans une salle près de chez vous, courez le voir. Il est disponible
En vidéo sur demande,
En vidéo sur demande aux États-Unis. Ça veut pas dire qu'il est au Canada, mais potentiellement qu'il est disponible en vidéo sur demande au Canada. En ce moment, il y a une campagne de sociofinancement qui a lieu, il lui reste 21 jours pour lever de l'argent pour faire les goodies, là, les figurines, les bébelles, là même. Ah, donc, ce n'est pas pour faire le film est fait, mais c'est vraiment pour lever de l'argent pour faire le merchandise. Uh-huh. Je ne sais pas comment le film performe aux États-Unis. Je n'ai pas regardé les box-office. Je ne suis pas au courant de ces détails-là, mais ça vient de sortir. Là. Au moment où on se parle, ça fait même pas une semaine que le film est sorti. Donc, je ne sais pas comment il a fait son premier week-end. Je ne sais pas comment la mise en marché a été faite là-bas. C'est une compagnie de distribution américaine qui s'occupe de ça, qui était présente à Fantasia. Là, il y a eu plein de panels de conférences sur le projet. Là, donc on rencontrait tout ce monde-là. Mais je veux en revenir au film. Le film est une expérience extraordinaire parce que c'est l'idée, elle est brillante. Là, c'est de faire un film du futur comme on en faisait dans les années 90, si tu veux. Puis, donc, c'est un univers parallèle, futuriste et uchronie. Comme s'il y avait eu une guerre des robots dans les années 80, si tu veux. Puis on est dans les années 90, après cette guerre des robots-là. Alors, t'imagines qu'il n'y a pas de téléphone cellulaire, il n'y a rien des éléments modernes qu'on a.
C'est
génial. Puis il y a tout le truc des BMX, là.
Okay.
Ils font de la course à BMX. L'idée est vraiment, vraiment très, très bonne. Et c'est un bonbon, là. Regarder ce film-là, c'est un plaisir. Puis c'est pas juste... Des fois, ces affaires-là, c'est des gimmicks de comme une sorte de concept que tu fais. Puis ça vient juste comme de plugger des jeux Atari, puis toutes sortes de niaiseries de l'époque. Okay, mais c'est pas ça du tout. Il y a une histoire, l'histoire est bonne. Il joue beaucoup aussi sur le
c'est
gore.
Comment ça s'appelle? Kong Fury. T'avais vu le court-métrage Kong Fury?
Il y a beaucoup été comparé à ça.
Ouais.
Et les
Kong
gens.
Fury, ouais, c'était le gros délire années 80.
C'est ça, mais les gens ont tendance à dire que Turbo Kid est. Ben, en fait, moi, dans les gens qui comparaient, ils disent que c'est pas comparable. Turbo Kid, c'est vraiment meilleur. Là.
Ouais, OK.
Comme.
Ouais, parce que Kong Fury, c'est un gros délire stylistique presque.
Non, je pense
c'est drôle, mais ça a ni queue ni tête. C'est complètement.
Turbo Kid, il y a vraiment une histoire, elle est chouette. Il y a quelque chose de classique dans l'histoire, mais les comédiens sont vraiment bons. Coudou à. Oui, j'ai oublié son nom, Leboeuf. Laurence Leboeuf.
Hein.
Est extraordinaire là-dedans. Elle joue super bien son rôle. C'est parce qu'en fait, c'est ça, c'est qu'il construit son histoire.
C'est francophone ou anglophone?
Anglophone, c'est en anglais.
OK.
C'est fait un petit peu, je te dirais, c'est comme des pastiches, ils mettent plein d'affaires ensemble à la Tarantino, mais c'est aussi brillant que comme Tarantino peut le faire.
OK, wow. Okay.
Parce que Tarantino, il te raconte une histoire, il t'amène dans des émotions avec des collages. Moi, j'ai toujours trouvé que Tarantino, c'est une espèce de... tu sais, c'est comme les gens qui faisaient de la musique dans les années 90 en prenant des vieux disques vinyles, puis ils allaient chercher genre... 5 secondes, puis de coller ça ensemble. Ben pour moi, Tarantino, c'est la même chose. C'était de faire de la musique avec des vieux films où est-ce que il allait chercher une idée, un concept, un cliché, puis il te le patchait quelques secondes. Ben, Turbo Kid, je pense, fonctionne un peu de la même façon, tu sais, en racontant son histoire. Donc, c'est une manière, en fait, de raconter l'histoire comme c'est une manière de faire de la musique, d'aller chercher des petits bouts de musique que tu mets ensemble. Puis, Moby là, faisait ça, là, comme c'était bon, là. On écoutait ça, puis on aimait ça, là, dans les raves, puis les parties, puis les bars dans les années 90, le sampling, tu sais.
Ouais.
Donc, c'est le même principe, puis c'est fait de façon vraiment brillante. Tout est bon là-dedans. Les comédiens sont bons, la cinématographie est belle, les costumes sont le fun, l'histoire est engageante, les effets spéciaux sont parfaits, ben dans le sens comme il y a un petit côté cheesy toujours avec quand quelqu'un se fait découper en morceaux, tu comprends, puis qu'il gicle le sang, mais ça va parce que ça va dans le style du film, okay. Tu sais, c'est parfait, là, tu ris, t'embarques, T'as pas envie là, de t'attarder aux détails. Là. Tu reconnais tout de suite quel genre de film tu es en train de voir avec ça, puis il est super bon. Et aussi à Fantasia, j'ai eu aussi l'occasion de jaser avec un des producteurs de Tuporkit, qui est Benoît Beaulieu. Et c'était très, très le fun, justement, ce Fantasia-là, parce qu'il y avait Benoît, il y avait aussi. Juste pour vous montrer comment c'est à Fantasia que ça s'est fait, ce film-là. Donc, il y avait Benoît. J'ai mentionné tantôt Anne-Marie Gélina. Était là, mais il y avait aussi plein de gens qui ont aidé au film, tu sais, qui racontaient leur histoire. Cool. Il y avait une Caroline Labrèche, puis Steve, son copain, Steve, j'ai oublié ton nom de famille, qui eux autres ont beaucoup aidé au film, qui étaient dans le film, Steve jouait dans le film, okay. Puis eux autres, tu sais, des gens de Fantasia qui ont présenté des films dans Fantasia, blablabla. Tu regardais le film, la salle était remplie, tous des gens de Fantasia qui avaient été des figurants. Donc, toute la famille du film se trouvait à Fantasia et voir le film à Fantasia, devant le public de Fantasia, il y avait vraiment beaucoup d'émotions. Les réalisateurs étaient hyper émus. Donc, je tenais juste à faire une petite parenthèse là-dessus sur cette expérience-là du film dans le cadre de Fantasia. Donc, je vous conseille vraiment d'aller faire un tour. Puis moi, j'ai beaucoup aimé. Puis en fait, encourager évidemment un cinéma québécois différent. J'ai une grande conversation avec un de mes amis sur la question de faire du film en anglais versus en français.
Oui, c'est bien à propos pour toi, là.
Ben oui, nous on pourrait en parler longtemps de ça. T'sais, nous, on parle de films en anglais en ce moment. Pourquoi il n'y a pas plus de films francophones ou de d'autres langues, de genre, de science-fiction? Surtout à une époque que c'est moins cher en faire. Ouais. Parce que je pourrais comprendre que faire Star Wars en français... Puis encore, même Star Wars, c'était à une époque d'Hollywood. C'était comme un peu les gros studios d'Hollywood qui commençaient. Parce qu'en fait, Star Wars a lancé une sorte de genre de méga-film. On s'entend que... Des grands films d'action, Star Wars, il y en avait... Tu sais, je veux dire, toute la mode des films à 200 millions de dollars là, qu'on a aujourd'hui, dont on va parler aujourd'hui, là, quand j'aurai fini mon truc sur Turbo Kid. Mais bref, là, j'ai fait vraiment une grosse vrille. Excusez-moi, les amis, parce que je pense que ça n'a pas rapport de parler Star Wars quand on parle de Turbo Kid. Mais ce que j'essayais de dire, c'est que c'est dur de financer un film de genre en français. Je ne sais pas s'il y a un message qui a été envoyé aux institutions. Regardez, on a du talent au Québec, on est capable de faire du bon film de genre. Puis là, on le fait en anglais. Ce serait-tu intéressant de le faire en français?
Mais est-ce que tu penses que ça vient du fait que les institutions ne sont pas intéressées à financer des films de genre ou parce que le public n'est pas intéressé aux films de genre francophones?
Le public est définitivement intéressé aux films de genre, il n'y a aucun doute.
Okay.
Les films américains fonctionnent au box-office au Québec. Je veux dire, on ne peut absolument pas dire le public. D'ailleurs, Patrick Sénégal, c'est un bon exemple. C'est l'auteur le plus lu au Québec. Là.
Oh, okay,
c'est
l'auteur le plus... Je
oui.
Pas. Okay.
Oui, Patrick Sénécal, il a vendu 1 million de livres. Là. Imagine, 1 million de livres au Québec. Ouais. On est 8 millions.
Ouais.
Puis c'est pas les vieux qui lisent ça, puis c'est pas les bébés. Donc, réduis ça aux adultes,
non,
aux jeunes adultes.
J'ai aucune
idée. Personne sur cinq qui a lu un livre de Patrick Sénécal.
Wow, OK.
OK? Puis comme c'est d'une tranche plus jeune, on peut dire, je dirais presque un jeune adulte sur trois a lu du Patrick Sénécal. Okay. Et donc... Tout ça pour te dire que, non, le genre fonctionne, ça a toujours fonctionné. Téléfilm a embarqué dans Turbo Kid. Ce qui est intéressant, c'est une coproduction nouvelle-zélandaise, parce que là, je t'ai parlé du producteur nouveau-zélandais, mais là-bas, il y a une institution de films comme ci. Il y a certains pays qui croient à financer. Je pense que quand on regarde certains films britanniques, j'ai l'impression qu'ils ont du financement. Je ne pense pas si Children of Men a-tu été fait qu'avec des fonds privés ou c'était un financement du gouvernement britannique?
Non, je pense que c'est une coprode
américaine?
Anglo-américaine, je pense, quelque chose comme
tout
ça.
Privé,
je
pas... Ça se peut que Children of Men soit tout privé, je suis d'accord. Mais,
faudrait que je vérifie, mais...
Mais il y a beaucoup d'argent qui vient du financement public, puis c'est certain, je trouve que Téléfilm a une plus grande ouverture à ça. Après ça, la SODEC, je veux dire, ils font leur choix, ils font d'excellents films, là. On va pas rentrer dans une espèce de critique du cinéma québécois, mais c'est certain que on peut se poser la question, pourquoi c'est si rare un film de genre dans tous les films québécois qui se font, les longs-métrages, les courts-métrages aussi. T'sais. Donc, peut-être l'idée de se faire au moins un film de genre aux 2 ans, si on se disait ça, là, que c'est une priorité, on va faire un film de genre aux 2 ans. Une année, ça va être une science-fiction, une année, ça va être un film d'horreur, t'sais. Puis une année, ça va être un thriller. Ça serait déjà mieux que ce qu'on a, parce qu'on n'a même pas ça, parce que ça serait tout much demander combien de longs-métrages sont produits au Québec, t'sais? Puis peut-être on pourrait même se dire, est-ce qu'on pourrait produire un film de genre d'auteur? par année au Québec aussi, parce que le Québec favorise le film d'auteur. Donc, une science-fiction d'auteur. Tu sais, je veux dire, quand les gens ils déposent des projets de science-fiction d'auteur, pourquoi ils sont systématiquement refusés? C'est des bonnes questions à poser aux institutions, puis c'est aussi aux gens de le faire. Hein. Les institutions, ils font leur travail. Là. Les gens qui sont dans les institutions, s'il n'y a pas le public, va pas leur dire, ben nous, public qui payons ton salaire, c'est ça qu'on désire avoir comme cinéma, ben ils vont continuer à faire ce qu'ils font. Puis ce qu'ils font, ils le font bien. Donc, c'est facile d'aller bitcher. Puis c'est la faute de la SODEC, c'est la faute de Téléfilm. Téléfilm a changé. C'est possible que ça soit parce qu'il y a des gens qui ont fait présence sur Téléfilm. On veut voir autre chose. Donc, voilà. Donc, j'inviterais tout le monde à peut-être écrire une petite lettre à la SODEC en leur disant c'est quelque chose de très bien, ça. Prendre un bon vieux papier, utiliser les bons vieux méthodes. T'écris une lettre sur papier, puis tu l'envoies, puis tu demandes à des amis de le faire. Puis tu fais juste comme avoir un petit mouvement qui part comme ça en discutant sur Facebook avec le monde. Oui, sans être agressif, sans être méchant, en restant positif, en disant, regarde, nous, aller voir Turbo Kid puis écrire à la SODEC. Moi, j'aimerais ça avoir en français des Turbo Kid, tu sais. Parce que, comme je disais à mon ami qui était peiné de me voir faire un film en anglais, moi, ça me ferait extrêmement plaisir de faire un film de genre en français. J'aurais autant de plaisir à le faire en français qu'en anglais. Je suis quelqu'un qui aime la langue anglaise, qui aime la culture anglaise. Donc, je suis heureuse de le faire dans une culture que j'aime. Je serais très heureuse de faire un film en japonais. Comme vous savez, j'adore la culture japonaise. Mais j'aime ma langue, j'aime le français. Puis, je serais ravie de pouvoir faire un film en français. Donc, mais tout ça pour dire que Turbo Kid, la logique, évidemment, de faire un film en anglais, c'est que le financement vient de là. Puis, il y a moyen de rentrer dans son argent. C'est plus pour les gens qui financent. Ce film-là, l'argent qu'ils ont eu, là, on va se le dire, là, ils n'ont pas eu plus qu'un film de Xavier Dolan. Là. Ils ont eu probablement moins pour le faire. Là. Alors, la logique que ces films-là coûtent toujours plus cher, blablabla, j'y crois pas, là. C'est quand tu regardes sur Bokit puis tu te dis que certainement ce film-là a eu moins de budget que le dernier film de Xavier Dolan. Là. Enfin, je dis un peu n'importe quoi. Xavier Dolan va m'appeler. Anne-Marie Gélina va m'appeler. Ils vont tous me dire, tais-toi, Marie-Louise, tu dis n'importe quoi. Je suis pas au courant des budgets.
Si tu nous écoutes, Xavier, on t'aime.
Bon. Oui. Je ne veux pas dire qu'on devrait enlever l'argent à Xavier Dolan pour le donner à des films de genre.
Ça serait cool de savoir que Xavier Dolan nous écoute. Ça serait top. J'apprécierais beaucoup. Mais qu'est-ce que je veux dire? À quel niveau ils sont intervenus, la Nouvelle-Zélande, au niveau de la production?
Ils étaient là dès le début. Comme je te dis, il y avait des c'était un concours de films, un par chaque lettre de l'alphabet.
Okay.
Dans les trucs de genre, c'est des courts-métrages. Et le gars qui a organisé ça, c'est un Nouveau-Zélandais, si je me trompe pas. Là, je vous raconte une histoire, là, puis je me sens tellement comme la journaliste épaisse qui a pas fait ses devoirs puis qui dit n'importe quoi mémoire. Mais il y a quelque chose dans ces eaux-là, parce que je ne m'attendais pas à parler de Turbo Kid. Écoutez, on va sûrement faire un podcast sur Turbo Kid.
Ouais, ben,
on
va sûrement faire un podcast. Il faut que je vois ça. Puis, en tout cas, tu m'as encore plus donné envie de le voir que ce que tu m'avais déjà dit. Je regrette de ne pas l'avoir vu avec toi. Là, j'étais super occupé, mais j'ai bien hâte, en tout cas. Ça a l'air cool. Bon, ben voilà. Donc,
on peut passer à notre programme principal.
Ouais, la plug de l'épisode. Voilà. Turbo Kid à ne pas manquer.
Et j'en ai pas d'autres parce que j'ai passé le reste de mon temps à me concentrer sur des régimes qui fait en sorte que je bois pas d'alcool avec toi ce soir.
Bon, j'ai pas fait un vin thématique ce soir, mais j'ai trouvé une petite bière, une bonne petite Blanche des Anges en l'honneur de l'Ange de Verdun.
Ben voilà, il y avait un thème, c'est pour ça que je voulais que tu en parles. Je savais que tu l'avais pas acheté, n'importe comment.
Voilà, petite bière de microbrasserie de Mont-Tremblant, de comment ça s'appelle, Saint-Arnoux, je crois. Ouais, c'est ça.
C'est vraiment non parce que le régime que je commence, c'est comme, c'est écrit comme en noir, en gros, comme tu peux prendre du vin un peu à modération, mais jamais de bière. Tu sais, c'est l'aliment le plus péché après le coke. Donc, je vais respecter mon régime que je fais depuis 2 jours, puis je vais te laisser boire la bière tout seul. Mais c'est tentant.
Bon, ben alors, revenons-en à Edge of Tomorrow de Doug Liman. Edge of Tomorrow. Comment ils ont appelé ça en français À l'aube de demain, un truc comme ça. Je ne sais plus, je ne me rappelle plus. Enfin bref.
J'ai pas été voir
les multiples traductions françaises.
Je pourrais éventuellement le trouver si je t'approche là.
Je vais commencer par le traditionnel petit résumé du film que j'ai honteusement pompé sur Allociné, je pense, ou un truc dans le genre.
Ça t'arrive.
Voilà. Edge of Tomorrow. Dans un futur proche, des hordes d'extraterrestres ont livré une bataille acharnée contre la Terre et semblent désormais invincibles. Aucune armée au monde n'a réussi à les vaincre. Le commandant William Cage, joué par Tom Cruise, qui n'a jamais combattu de sa vie, est envoyé sans la moindre explication dans ce qui ressemble à une mission suicide.
Il meurt en l'espace de quelques minutes et se retrouve projeté dans une boucle temporelle, condamné à revivre le même combat et à mourir de nouveau indéfiniment, jusqu'à ce que... Voilà.
J'ai ta réponse à ta question. Alors, la première, c'était « Aujourd'hui et jamais en France »
ah, voilà.
et « Un jour sans lendemain au Québec ». Mais, voilà. mais, sachant que le titre original est « Is all you need is skill » en japonais, car c'est une adaptation d'un roman japonais.
Yeah! Ouais, c'est ça.
Un roman léger
ça.
Japonais, comme ils disent.
Toi, tu l'as pas lu?
Ben non, je l'ai pas lu. Je dis pas le japonais encore. Je suis à peine capable.
Non, mais une traduction. Je parlais pas de dire en japonais. Non,
non j'ai pas lu la traduction du tout. C'est...
Moi, j'ai lu le manga, donc qui, dans ce que tu m'as dit, a été.
C'est une adaptation du roman.
Une adaptation du roman. Ok.
C'est ça. Donc, c'est une autre adaptation de la même histoire finalement que tu as lu, parce que c'est pas le même auteur qui l'a écrit. Okay. Mais c'est All You Need Is Skill, c'est de Hiroshi Sakurazaka.
C'est ça.
Hiroshi Sakurazaka, qui lui. A été nominé pour le Seiyum Award, qui est comme un peu l'équivalent du Hugo Award japonais, le fameux... c'est juste pour les japonais, le Hugo Award, c'est plus...
Global.
C'est tout, tu peux soumettre des prix dans toutes les langues, là, okay. si je ne me trompe pas. Mais c'est vraiment un prix, d'après Wikipédia. Je ne vais pas avoir l'air de connaître plus que le Seiyum Award, mais je suis très intéressée. Justement, j'étais là, oh, plein de livres dans le Wikipédia japonais à lire. De science-fiction, yeah! Donc, c'est ça. Donc, c'était... je crois qu'il a été en nomination. Je ne sais pas s'il l'a gagné. Donc, si je fais une petite recherche un petit peu plus loin... All You Need Is Skill, ça va peut-être nous le dire, mais bref, c'est-il une histoire qui a été très très populaire au Japon, okay. avant de devenir Edge of Tomorrow.
Voilà, puis c'est ça, moi j'ai lu le manga, donc il a été adapté ça, mais après avoir vu le film en fait, je l'ai trouvé à un prix ridicule sur Cosmixology en ligne, et voilà, donc j'ai lu ça avec plaisir. Et pour découvrir un petit peu l'origine de tout ça, donc toi, alors tu connaissais, toi tu viens de le voir ce film en fait, tu l'avais pas vu à la sortie.
Ah non, moi je l'ai vu. Là, je peux dire que à la question, quand est-ce que tu as vu ce film? Hier. Parce que souvent quand on fait le podcast, j'ai vu le film une fois ou des fois plusieurs fois, quand c'est un de mes films préférés. Là, genre 12 Monkeys, je l'avais vu plein de fois. Brésil, je le connaissais par cœur. D'autres films que j'ai vus plein de fois qu'on a fait, 2001. Mais lui, je l'avais vu zéro fois. Et dernière minute, hier, je commence à l'écouter et tard. Même pas hier de bonne heure. Et je l'ai fini avant que tu arrives tantôt. Parce que je n'avais pas écouté le troisième acte. Et voilà, donc ma réaction au film va être ce que j'ai en envie de dire aujourd'hui. Mais quand même agréable à regarder. Film d'été, c'était film d'été 2014. Et là, on est en 2015. Et c'est le feeling d'un film... blockbuster d'été, et on est, je pense, avec la petite chaleur qu'on a en ce moment, c'est parfait. Et toi, Nick?
Ouais, moi, je l'ai vu à la sortie. En fait, j'avais vu la bande-annonce ça m'avait intrigué. J'aimais pas le titre. Je trouve, enfin, il y a eu une mauvaise publicité. Enfin, c'était un peu comme bâclé, j'ai l'impression, tout le marketing qu'il y a eu du film. Mais néanmoins, la bande-annonce que j'avais vue, ou c'était peut-être une des dernières bande-annonces. La première que j'avais vue, j'étais là. Pourquoi pas, tu sais. Un espèce de Groundhog Day mélangé avec Starship Troopers. T'sais.
Mais ça, c'était dans la bande-annonce, tu le savais déjà qu'il y a un truc du genre Groundhog Day ou,
Oui, parce qu'il te donne... il te donne quand même il te tend la perche avec l'histoire du gars qui meurt puis qui recommence sa journée. Là.
Ouais, c'est vrai, bon. C'est ça l'élément que...
Ouais. Mais je crois que c'est au bout de la... Peut-être la troisième bande-annonce, ou alors je ne sais pas si c'était la bande-annonce IMAX, mais il y en a une où tout à coup ils ont comme boosté un peu le marketing, ou en tout cas ils ont un peu réfléchi à ce qu'ils faisaient. Mm-hmm. Et tout à coup ils ont commencé à sortir le tagline Live, Die, Repeat, tu sais. Qui est très fort, qui est beaucoup plus fort que le titre du film en fait.
Ça pourrait être le titre du film.
Mais d'ailleurs, ils ont construit tout le marketing de la sortie DVD, Blu-ray, tout ça, autour de ça. C'est-à-dire que... Et je crois même que pendant la...
Ouais, puis ça fait jeu vidéo en plus.
Ouais, c'est ça. Et bah du coup, oui, c'est ça. Parce que Edge of Tomorrow, ça veut rien dire. Enfin, c'est un peu vague, finalement. C'est pas très vendeur, comme surtout pour un film de science-fiction, je sais pas. C'est pas très... Y a pas, pour un film d'action,
ouais,
en plus.
Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont chialé là-dessus.
Mais
c'est vrai que c'est vrai que quand j'y pense, je fais comme... Ah oui, c'est pas bon, mais ça me choque pas, tu sais.
Ouais.
C'est pas comme j'entends le titre puis je suis comme what the fuck is that, tu sais, ou c'est quoi l'idée.
Mais après, quand ils ont commencé à ressortir des affiches puis par la suite les covers de DVD là, et là c'était en gros sur la cover Live Die Repeat et en tout petit en bas Edge of Tomorrow. C'est assez drôle quand même. Puis, et d'ailleurs, il y a plein de. Je lisais dans le trivia là qu'il y a des, vidéoclubs ou des services comme Redbox ou des trucs comme ça où c'est listé sous L, pas sous E. C'est drôle quand même. Et donc voilà, enfin bref, donc je suis allé le voir, peu après la sortie avec, avec un copain, avec Sid que tu connais. Et les deux, on était intrigués, on avait envie de le voir, ça nous parlait, le concept et tout. Mm-hmm. Puis. Tu sais, comme il y a eu un espèce de marketing un peu bizarre, on se disait, ouais, Tom Cruise, science-fiction, je sais pas trop, machin. Puis, on est sorti de là, on était super enthousiastes, quoi. Super enthousiastes, on avait passé un super moment. Moi, j'ai trouvé ça super fun. C'est pas un grand film de science-fiction, mais je veux dire...
Il y a beaucoup
de
qualité dans ce film-là.
Ouais. Et puis là, je l'ai revu, là, tout récemment, avec ma femme, qui est pas une grande fan de films d'action. Mais... Connaissant le film, puis connaissant l'humour qu'il y a dedans et la manière dont il est construit, etc., je me suis dit, tiens, ça pourrait peut-être lui plaire. Puis effectivement, ça lui a beaucoup plu. Elle a pris beaucoup de plaisir. Puis c'était chouette d'en parler avec elle et tout ça. Donc voilà. Donc c'était, et c'est un film que j'ai du plaisir à revoir. Je l'ai vu plusieurs fois, en fait, entre les deux, là. Parce qu'il y a plein de choses qui me plaisent beaucoup dans ce film.
Mais c'est vrai que moi, j'avais la pulsion de vouloir le revoir. Et tout de suite, je pense que j'ai envie de mentionner que Groundhog Day, qui est clairement un peu une des histoires, qui est le film qui représente ce style d'histoire-là.
Ouais.
Je l'ai vu.
Ouais. Okay.
J'ai vu compulsivement. L'ai vu compulsivement là.
Ouais.
Pendant une semaine, j'écoutais Groundhog Day deux fois par jour. Tu sais, j'avais envie de revoir ce film-là.
Ouais.
Tu sais, quand t'es petit. Quand t'es enfant, puis que t'aimes un film, comment tu le réécoutes tout le temps, puis t'arrêtes pas, puis tu le réécoutes. Je pense que c'est sur ce plaisir-là que ça capitalise.
Ouais, probablement.
T'as envie de revenir dans l'histoire constamment, tu sais.
Ouais, parce que t'as eu des sensations, des émotions qui t'ont fait du bien et t'as envie de les revivre. Enfin, il y a ce phénomène-là, je suppose.
Ouais, mais en plus, c'est une histoire qui t'invite à ça. Tu sais, ça, comme l'histoire fonctionne sur le fait. On va retourner, on va revoir.
Ouais.
On va revoir des détails. Parce que quand on re-regarde un film, il y a quelque chose de rassurant.
C'est vrai.
D'en revoir les mêmes choses, tu sais. Mais évidemment aussi, ça faisait penser à Source Code.
Oui, il y a un côté. Source Code, ça devait être comme 3-4 ans plus tôt, peut-être.
Oui, c'est ça.
Un truc comme ça. Je dirais. Je ne vais pas dire
2011.
Ah, 2011. Ok,
c'est ça,
pas loin.
Ans.
Hein, c'est ça.
Tu l'avais.
Et un petit peu dans le même esprit, ouais, aussi sur le recommencement. Tu sais, à chaque mort, tu recommences le truc.
Et l'enquête.
Tu reprends au même point et l'enquête avance à chaque fois parce que tu essayes de faire reculer l'échéance, la mort, quoi. Y a un côté jeu vidéo qui, je pense, a parlé. En fait, c'est marrant, donc, parce que le film, en fait, donc, si on rentre directement dans le truc.
Mm-hmm.
Attends, je vais ressortir mes petits show notes. Le film, domestiquement, a pas fait un score. C'est un film qui a coûté 178 millions. Et qui a fait un box-office américain de 100 millions. 100 millions de 100 000, à peu près.
Ce qui n'est pas une catastrophe, là.
Non, mais c'est pas... Mais ils sont retombés sur leurs pattes avec...
C'est toujours comme ça, maintenant. De nos jours, là, c'est normal.
C'est probable.
Je veux dire un truc, là. Pour moi, je regarde ça, là, un film qui a coûté 170 millions, puis qui a fait en vente US worldwide au box-office 400 millions, un peu moins de 400 millions. Non, c'est ça, environ 400 millions. Là, après ça, t'es même pas en vente DVD, en vente iTunes. Qui soit dit en passant, il est même pas sur Netflix. Puis tu peux juste l'acheter sur iTunes 10$.
C'est vrai.
Donc, à moins que t'aies une longue patience pour le pirater, tu vas le payer sur iTunes en ce moment.
Ouais.
Donc, du coup, il y a beaucoup, beaucoup d'argent. Ce film-là a généré beaucoup d'argent. Là.
Ouais.
C'est des bonnes business. Parce que tu peux imaginer que dans ce budget-là de... 400 millions ajoute un.
Non, puis je pense que
200
sur les...
millions de publicité, de ouais, 300 millions de
publicité. Non, puis je pense qu'il y a eu un buzz. C'est-à-dire qu'après, une fois que le film est sorti, que les gens l'ont vu, il y a eu un buzz positif.
Je pense que ce film-là a été bien reçu par la critique. Puis le public lui donne 7,9 sur IMDb.
Ouais, c'est bien.
Puis 90 sur Rotten Tomatoes. Ah, on peut critiquer ce film-là. Si on veut aller dans le négatif, il y aurait comme plein de choses à dire. Faisons un commentaire négatif. Le troisième acte avec la fin. Avec cette espèce de. La dernière scène, tu sais, où est-ce qu'ils s'en vont... Bon, déjà, ils immobilisent tous les petits nonos là, du début, là, puis ils meurent tous. Tu sais, puis ils viennent juste... Tu sais, c'est dommage. J'aurais aimé ça avoir un peu un truc à la Alien, là. tu comprends, ou que ces GI-là sont là, sont courageux, ils ont embarqué dans le truc. Ouais. Bon, tu sais, chacun va comme tuer sa bébite puis mourir d'une façon un peu noble, tu sais.
Ouais. Ils se font un petit peu...
Là, ils se font juste comme... Il y en a qui sont écrasés tout
l'un
court.
Après l'autre.
Il y en a deux qui décident de... Oh, nous, on n'y va pas. Ben, l'autre, il dit, tu vas mourir anyway. Ben, c'est pas grave, on n'y va pas. Ben, tu sais, c'est comme... À moins que j'ai mal compris quelque chose, je l'écoute un peu vite, la fin, là, où est-ce qu'ils sont restés pour les défendre, tu sais. C'est une temps que c'était pas ça.
Non, il y a des choses un petit peu...
Tu sais, puis toute l'action de la fin, elle était vraiment foncée, noire. Bon, j'avoue que la regarder en cinéma était probablement une meilleure option que de la regarder sur un écran de
Mais c'est
de
vrai
de
que
Mac,
c'est vrai que tout tenait la route jusqu'à cette dernière scène.
Pas cette dernière scène. Cette dernière scène d'action, après ça, t'as l'autre scène qui est la finale.
Là, la scène d'action, et puis la finale où là, tout ce qu'ils ont construit jusque-là marche plus. Enfin, je sais pas si on rentre directement dans la fin, là, dès le début, dès le début de la critique.
Pourquoi pas, parce que de toute façon, c'est un film qui recommence au début, donc on peut revenir au début. Allons-y vers la fin, puis on va recommencer après.
Ouais. Bah tiens, commençons par un petit extrait, puis, et puis après on parle.
Un extrait de la fin.
Ah, un extrait de la fin. Et puis après, on revient à.
Qui peut être un extrait du début, quand on y pense bien.
Exactement. Et on revient à tout ça après.
They know we're coming on the beach tomorrow. It's a slaughter, isn't it?
How do you know this? Could you just wait? Wait. But would you please just explain to me what the hell is happening?
What happened to you happened to me. I had it, I lost it, okay?
I mean, that's great. There's a cure. How do I get rid of this?
First, I need your help.
And with what exactly?
Winning the war.
Ouais, moi je trouve que je trouve que la construction du retour dans le temps, je trouve très bien écrite, très bien dosé, très bien écrit.
Le scénario est bien jusqu'au troisième acte.
Ça roule, c'est fluide. Il y a une bonne dose d'humour. Moi d'entrée, ce que j'avais beaucoup aimé, c'est le fait que Tom Cruise, tu sais, au début tu le vois, c'est un petit con, exactement, c'est un petit con. Bah tu le vois avec toutes ses médailles, ses machins, etc. Puis en fait tu te rends compte que c'est que du flan, c'est juste un représentant, un gars qui fait du PR,
finalement. Il s'est faufilé dans la hiérarchie.
Exactement.
Il est vraiment non mais tu comprends pas là, moi je vais pas aller battre là.
Et ça j'ai trouvé très drôle. Bon, tu te doutes qu'à la fin il va être le super héros, mais
oui, c'est Tom Cruise.
Au moins j'ai trouvé intéressant que ça commence comme ça, qu'il soit un petit con, qu'il se retrouve parachuté dans ce truc où il ne sait pas ce qu'il va faire et puis qu'il meurt au bout de quelques minutes. Puis il s'en prend plein la gueule pendant pas mal de fois. Ils disent jamais, je crois qu'il n'y a jamais aucun chiffre sur combien de fois il va revivre cette journée.
C'est vraiment le principe de Groundhog Day aussi.
Oui.
C'est la même chose, mais c'est un peu...
C'est le gros con du début qui devient meilleur avec l'expérience.
C'est ça, exactement. Puis il y a quand même un hommage à ça, mais moi, je l'ai vu comme un hommage, pas comme un plagiat, mais c'est vraiment la même histoire.
Ah non, j'ai pas parlé d'un plagiat du tout.
Hein. C'est vraiment, vraiment la même histoire. C'est le gars qui...
Oui, c'est classique.
Qui t'aime pas, qui est pas agréable, qui est comme vraiment... c'est super drôle de le voir essayer de soudoyer le général. Je vais vraiment te mettre dans la merde si tu me forces à combattre. Puis l'autre est comme... Quoi? Est-ce que je suis en train d'entendre ce que tu es en train de me dire?
T'sais? En plus, Brandon Gleeson, dans le rôle du général, là, qui est tellement bien casté, j'adore cet acteur.
Oui, mais c'est un acteur de deuxième rôle qu'on.
Oui, mais il est excellent. C'est un de ces acteurs de second rôle
qu'on voit souvent,
mais qui est toujours bon. Il est toujours bon.
Pour être un acteur de deuxième rôle, il faut que tu aies une gueule.
Ouais.
Faut pas que tu sois beau, faut pas que tu sois ordinaire, faut que t'aies vraiment un petit truc qui t'as un nez un peu croche. Là, lui, il a comme une espèce de face carrée.
Mais t'es un personnage, puis c'est un super acteur. Moi, j'aime beaucoup.
Ouais.
Mais donc il y a tout ce côté minable, c'est du personnage au début qui est assez jouissif, quoi, finalement. Surtout que ça soit un Tom Cruise
qui joue à minable,
qui joue ça, puis qui se fait tuer parfois de manière ridicule, tu sais, ou quand il essaie d'y échapper, tu sais, quand il commence à s'entraîner avec Rita. Il se fait blesser, puis il est là dans un coin, il peut plus bouger, tu sais,
et puis là
je sais pas ce qui se passe, j'arrive juste à bouger mes lèvres. Puis elle arrive vers lui, elle sort son gun, puis lui il est là, non mais on peut pas, non. Ou alors à un autre moment où il est là, non tout va bien, s'il est en train de se traîner par terre, et puis il est là, non tout va bien, c'est bon. Puis elle arrive derrière lui avec le gun de nouveau, puis elle le tue. Enfin, il y a des trucs comme ça que
puis c'est excellent parce que une des critiques qu'on a toujours récemment, c'est les rôles de femmes dans les films d'action et tout sont souvent vraiment, on a un contre-exemple total là, le rôle que elle a là est extraordinaire.
Ouais.
Là.
Rita, enfin donc Emily Blunt qui est une super actrice que j'aime beaucoup aussi.
Bah ouais.
Puis qu'avec ça j'ai découvert qu'elle est capable de tout faire. Tu sais, je l'ai vu dans de la comédie romantique ou de la, tu sais, enfin, du drame, etc. Enfin, plein de genres différents. Puis là, de la voir en badass dans un truc de science-fiction.
Elle est bonne, elle est crédible.
Elle est super bonne. Elle est à la hauteur de. Enfin, je veux dire, elle tient tête à Cruz. Vraiment. Paraît-il que c'est lui qui l'a amené sur le film, d'ailleurs. C'est une très bonne chose. Enfin, il avait envie de travailler avec elle depuis un bout de temps. Je pense qu'il l'avait vu dans plein de choses. Puis, bah, bon, très bon choix, là, vraiment. Quoi. Elle est parfaite quoi, dans ce rôle-là, elle est vraiment parfaite.
Puis, elle a toute l'espèce de petite attitude, comme, tu sais, c'est moi qui t'entraîne, tu sais, mais ça marche. D'habitude, c'est toujours le contraire. Ça va être le gars qui va entraîner la fille. Tu sais, comme même dans Kill Bill, si c'est Kill Bill, puis elle est vraiment fucking badass, c'est quand même le chinois qui
le
l'entraîne.
Le gros méchant qui l'entraîne.
Kill Bill qui l'entraîne. Elle est pas. Ce qu'il faut toujours montrer dans un film quand tu as une femme qui est super-héros, c'est qu'elle a toujours un moment d'apprentissage par un gars qui va lui montrer comment se servir d'un gun, comment se servir d'une affaire. Ouais. C'est, même dans Alien, c'est ça. Là, comme, elle est wise, elle est badass, Ripley, mais dans le deuxième, il lui montre comment se servir du gun.
Il y a un moment où il montre comment ça se passe.
Puis en même temps, ça va dans Alien, on le pardonne, parce que c'est vraiment un personnage qui, à la base, n'était pas militaire, donc c'était comme logique dans l'histoire, tu sais. Puis c'est bien fait, mais reste qu'il y a toujours, comme dans les films d'action, souvent, tu sais, t'as la fameuse scène d'initiation qui n'est pas toujours quand c'est des personnages masculins. Et souvent, on accepte qu'un personnage masculin, il a comme commencé hot, tu sais. James Bond, on voit jamais son entraînement, là. Puis c'est la définition du film d'action, tu sais. Puis là, ce que j'aimais avec ça, c'est qu'ils ont complètement renversé la chose. She knows, tu sais. Elle a passé à travers, puis elle a eu le même processus que lui, où est-ce que c'était son premier jour de combat, puis elle a comme... Il l'appelait l'âge de Verdun parce qu'elle a tué la bébite son premier jour de combat. Puis après ça, tu te rends compte que c'est pas son premier jour de combat
exact.
Qu'elle a dû le faire...
300 fois, ouais, je sais pas quoi. Enfin, elle dit à un moment qu'elle a vu... elle a vu quelqu'un mourir 300 fois, donc
c'est ça.
C'est là où tu supposes que ben elle a revécu la chose autant de fois. Lui, tu sais jamais. Il y a pas de chiffre qui est articulé nul à aucun moment dans le film. Je crois combien de fois il a dû vivre cette journée. Mais
pour qu'il devienne bon combattant, même là, comment il partait là il partait loin là, lui.
Ouais, c'est clair. Mais c'est bien parce que c'est bien amené aussi cette manière-là où tout à coup il y a cette conversation, tu sais, ils sont dans ce village en France là, ils s'arrêtent pendant un instant, il y a la scène du café, puis c'est super bien amené.
Parce que là tu te rends compte que cette scène-là que toi tu vois pour la première fois, lui il l'a vécu plusieurs fois.
Puis elle lui demande aussi, elle lui dit, je crois qu'elle lui dit un truc de style, combien de fois on est venu, combien de fois on a vécu ça, tu sais.
Ouais.
Ou combien de fois est-ce que t'as vécu ça? Et puis lui il veut pas lui dire qu'après elle meurt parce qu'il se passe ça, etc. Enfin, bref, mais
qu'elle meurt à chaque fois, puis qu'elle veut pas, qu'elle veut qu'elle reste, puis que ça sert à rien qu'elle embarque dans l'hélicoptère, pas rien savoir, elle embarque pareil, tu sais.
Et je trouve ça très bon. C'est vraiment super bien amené quoi. C'est vraiment bien écrit quoi. J'étais agréablement surpris par la qualité de l'écriture. T'sais.
Ah ben le scénariste, il a fait des... Qu'est-ce qu'il a fait déjà, lui? C'est quoi son background?
Écoute, alors, je ne sais plus.
Je l'avais checké tantôt.
Donc, il y a... Christopher McQuarrie. Ben oui, bien évidemment, Christopher McQuarrie. C'est lui qui avait scénarisé...
Ça m'échappe.
Pourquoi?
Usual Suspect.
Voilà, Usual Suspect, exactement. Usual Suspect. Ben, c'est lui qui vient de réaliser le dernier Mission Impossible, à part ça, en passant.
Ben ouais.
Le tout dernier. Le...
Qui paraît qu'il est le meilleur.
Ouais, le Rogue
Nation.
Tout le
monde dit que c'est le meilleur.
Que j'ai toujours pas vu et qu'il faut absolument que j'aille voir.
Donc, lui, ensuite, il y a...
J'avais fait à l'époque un autre film que j'avais beaucoup aimé qui s'appelait The Way of the Gun.
Jez Butterworth, qui est aussi...
Je pense que ça doit être deux frères. Il y a Jez et John Henry Butterworth.
Eux autres, je ne connais pas les films qu'il a fait.
Et j'ai vu que...
Fair Game, ça dit quelque chose,
Ils ont travaillé... Oui, c'était tiré d'une histoire vraie de cet agent de la CIA... dont le nom avait été diffusé, tu sais, parce qu'elle avait critiqué l'administration Bush.
C'est ça, c'était c'est l'histoire-là. Oui, ça, c'était horrible, cette histoire.
Voilà, ça raconte cette histoire-là, ce film-là. Et je crois que c'est écrit par c'est ça, en fait, c'est aussi réalisé par Doug Liman et aussi écrit par les mêmes deux frères-là.
Okay. Parce que c'est ça, c'est une chose de partir d'une histoire, qui est l'histoire du roman, puis c'est une autre chose d'en faire un film. Puis je peux te le dire, parce que c'est ce que j'essaie de faire moi en ce moment. et c'est comme vraiment une aventure. Donc, des fois, peut-être, avant que j'essaie d'écrire un scénario à partir d'un roman, qui est Le Passager, genre, que vous ne savez pas. Donc, avant que j'essaie...
C'est plug en passant.
Avant que j'essaie de faire ça, j'avais peut-être un léger préjugé défavorables envers les gens qui adaptaient des romans, comme quoi c'était okay. comme facile, ils partaient d'une histoire, etc. Mais pas du tout, là. Tu sais, je veux dire...
Mais c'est un médium qui est tellement différent, tu peux
oui,
pas
puis, puis c'est, y a
l'aborder
chose...
de la même façon. Enfin, je chose... suppose, je l'ai jamais fait personnellement.
Il y a quelque chose
mais...
de... comment dire, il y a quelque chose que le livre a, puis que le, tu sais, il y a vraiment une l'affaire, la transposition, c'est pas évident, puis l'histoire, ben les histoires sont intéressantes, les histoires sont faites pour être adaptées dans toutes les manières de les raconter, donc moi je suis pour qu'on prenne des livres, qu'on les adapte au cinéma, ouais. parce que l'histoire existe, quoi. T'sais, puis après ça, tu pourrais faire 5 films avec l'histoire. C'est un petit peu comme des pièces de théâtre. C'est comme un peu comme ça, on me disait, Shakespeare, on peut pas l'adapter parce que Shakespeare l'a fait une fois, puis il faut lire du Shakespeare. Ben non, ce qui est de le fun, c'est de voir l'adaptation de Shakespeare, je sais pas, moi, de Denis Villeneuve fait une adaptation de Shakespeare. C'est le fun de voir ça. On essaie, là, j'ai vraiment la sortie des noms. Là, je cherchais le...
C'est qui? Orson Welles?
Orson Welles a fait Othello.
Il y en a plein qui ont fait. Il y a Kenneth Branagh en a fait. Il y a
Kenneth Branagh.
Al Pacino a fait.
Al Pacino, c'est ça que je cherchais. C'est pour ça qu'il t'en touche comme...
Non, mais il y en a eu 1000 des adaptations. Il y a plein. Ben, il y a eu Baz Luhrmann qui a fait Roméo et Juliette. Il y en a eu plein.
Puis au Québec, on a un auteur de théâtre qui s'appelle Lepage. Robert Lepage a fait du Shakespeare aussi au théâtre. Donc, c'est le fun de voir toutes ces adaptations-là qui sont complètement différentes. C'est la même chose, un roman qui est adapté plusieurs fois au cinéma. C'est une bonne chose. C'est une chose intéressante, ouais. tu sais. Et donc, du coup, c'est une superbe adaptation du roman. Au cinéma, selon moi. Ben, j'ai pas lu le roman en japonais, mais je trouve qu'on sent clairement que le médium cinématographique est super bien utilisé là-dedans. Là. Ben, super bien. On a critiqué le troisième acte. Là. Ça serait peut-être.
C'est
peut-être plus le réalisateur à ce moment-là qui a
pêché. Je sais pas, il y a peut-être une pression du studio. Je sais pas d'où ça vient, mais.
On l'a facile. À chaque fois qu'on a quelque chose qu'on n'aime pas dans un livre, ça va toujours être la faute des producteurs puis du studio qui a mis une pression. Il aurait mis une pression pour la fin, machin, chouette. Moi, je pense pas que la fin. Je me mets à la place du réalisateur. Tu sais, je vois comment nous, on discute de la fin du roman et tout. Là. Moi, je suis celle qui, en ce moment, pousse le plus pour que la fin de notre film soit le plus fidèle au roman. Tu sais.
Ouais.
Parce que je suis là. Moi, je sais que si jamais la fin a changé, c'est moi qu'on va accuser d'avoir la productrice qu'on va avoir dit qui a voulu changer ça. Ta, 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 ta. Tu sais, je sens le backlash qui pourrait arriver si tu joues avec la fin du passager. Et puis, je me dis que des fois, c'est le réalisateur qui essaie d'être plus smart que l'auteur, qui essaie, c'est un risque. Mais tout ça pour dire que moi, la fin m'a pas... La fin qui se réveille, ça m'a légèrement agacée, mais pas indignée, vu que c'est un film d'action, puis on s'attend à ce que ça finisse bien. De toute façon, j'ai trouvé que c'était quand même cute, parce qu'un film d'action, ça finit toujours bien, les deux héros sont vivants, ils s'embrassent, l'héroïne ou l'héros s'en sort.
Sauf que là, après tout ce que tu as vu et tout le world building qu'il y a eu, en tout cas toute la, pas la mythologie mais le code ou le, tu sais, que le film a établi depuis le début, comment ça marche, l'histoire de du temps qui se reset, ça colle pas, la toute fin colle pas, tu sais, pourquoi elle est toujours vivante, c'est, il y a un truc qui colle pas, la succession d'événements ne marche plus.
Il revient au début, il revient avant la bataille.
Il revient avant. Oui, mais ce qui est pas normal, le jour aurait pas dû être remis à zéro.
Non, mais c'est un autre jour. C'est une autre bébite. Là, il tue la bébite, le Nexus final.
Il tue
final.
L'Oméga,
c'est ça.
Ouais.
Et puis, en tout cas, l'Oméga, il se fait courir encore de la gélatine, machin.
Ouais.
Mais ceci dit, je suis d'accord avec toi que là, il y a différentes gélatines qui manipulent le temps. Bon, parlons-en de la manipulation du temps et de la proposition de science-fiction là-dedans. OK, ça, c'est vraiment la faiblesse de l'histoire et tout. C'est comme genre, t'as des bébites qui sont aussi puissantes que ça, puis en plus que leur fun. Je veux dire, t'es capable de voyager dans le temps et tout. C'est quoi? Quel est ton intérêt étant une espèce de super espèce qui contrôle le temps, donc qui vit dans on imagine une autre dimension qui est le temps, d'aller, quoi, ils sont en train de planter des tomates sur la terre, puis c'est leur façon de faire, tu sais. C'est comme genre dans la énième dimension, puis nous, on s'adonne à être un tas de fourmis qu'elles veulent tasser, tu sais, détruire, on est nuisible. OK, peut-être, tu sais, qu'on est l'espèce nuisible dans l'univers, mais il y a quelque chose un petit peu, t'es comme genre, OK, il y a un truc un peu... C'est intense d'être capable de contrôler le temps. Là, t'imagines, là, t'es vraiment à un niveau très, très avancé dans les principes de science-fiction. Là. La civilisation qui est capable de contrôler le temps, OK, qui est capable de voyager dans le temps ou de... Hein, il est loin, là. Ils sont top, 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 là, ouais, tu sais. Puis c'est quoi, là? Ils sont comme belliqueux, là. Nous, on espère qu'on va tous être végétaliens, sauf moi, parce que je suis dans un régime que je mange de la viande en ce moment. J'en ai parlé de mon régime, j'en ai parlé. Et donc, on espère qu'on va tous être végétariens ou qu'on va vivre... On va vivre en prenant des roches pour les mettre en poudre, pour mélanger ça avec un petit peu d'eau quand on va être avancé... À ce niveau-là. Donc, ça, juste pour ça, les extraterrestres, whatever, tu sais, ils sont pas aussi satisfaisants que dans Ender's Game ou dans d'autres trucs où est-ce que c'est des bibites, genre le seul qu'on avait fait, Hey, je suis pas bonne aujourd'hui, j'ai de la misère à me rappeler, là, Robocop a été fait par Starship Troopers.
Non, Starship Troopers.
Starship Troopers, tu sais.
On l'a pas fait, Starship Troopers, encore.
On l'a pas fait?
Non, pas encore. On en a parlé beaucoup, mais on l'a pas fait.
On n'a pas fait Starship Troopers?
Non. Mm-hmm. Moi, j'attends avec impatience qu'on le fasse.
J'étais sûre qu'on avait fait Starship Troopers. Bon, encore là, dans Starship Troopers, il y a les bébés. Donc, en tout cas, bref, ça, c'est une chose. La deuxième chose après ça, c'est comme genre, OK, on accepte que la bébite, elle soit juste méchante puis que son but, c'est de tu sais, je veux
dire, tout le monde.
Elle peut fucking manipuler le temps puis elle va aller comme... Son truc pour tuer du monde, c'est d'avoir des bébites qui font puis qui te. Il y a pas une façon plus intéressante dans le fait que tu manipules le temps pour comme tu connais le futur. En fait, ce qui la définit, c'est qu'elle connaît le futur. Hein? C'est ça, sa force. Elle sait exactement ce que tu vas être. Donc elle te met des.
Donc elle t'empêche d'avancer.
Elle te met des pièges. Tu sais, elle est capable de transmettre son pouvoir à des êtres humains. C'est comme un méchant talon d'Achille. Là,
ben, oui. Ou en fait, ouais, les humains le découvrent. Complètement par hasard, finalement. Même les créatures elles-mêmes ne doivent pas être conscientes de ce truc-là.
Oui, mais ça ressemble à de la fantasy, là, ça. Là. Tu sais, c'est
oui,
comme,
ben oui.
C'est comme,
oui.
C'est comme weird, là, parce qu'il est couvert du sang. Il y a comme quelque chose de trop... Il manque le petit côté Matrix, là, où est-ce que j'y croirais, là, qu'on vit dans un monde mathématique, là, puis que le gars, il est comme un virus informatique qui fuck le programme, là. Ouais.
Non, c'est sûr qu'il y a... Mais je trouve que comment on dit le suspension of disbelief en français?
Suspension of disbelief.
Bonne
question.
Je sais plus comment on dit ça en français, mais moi ça à aucun moment c'est venu troubler le fun que j'avais à voir ce film. Aucun moment.
Non.
À part les 5 dernières minutes, enfin la fin qui marche pas par rapport à tout ce qu'on a vu avant, enfin à mon avis, c'est pas cohérent par rapport à tout ce qu'on a vu, mais heureusement ça a pas gâché le fun que j'ai eu avec le film, tu sais, je suis capable d'apprécier le film tout autant.
Tant pis
pour cette fin. L'affaire
avec le film d'action, puis souvent les histoires, c'est qu'on va comme passer par-dessus ces choses-là, tu sais. Mm-hmm. Mais c'est quand même le fun de réaliser que on n'est pas dans la science-fiction très élevée, là. On est vraiment dans un film d'action, là. T'sais, on n'est pas dans la...
Ah ouais, c'est du popcorn movie.
T'sais, un des trucs que j'aimais de Groundhog Day, c'est qu'il n'y avait pas besoin d'un extraterrestre. Il n'y avait pas d'explication. C'était juste... On ne l'a jamais su pourquoi il se réveillait tous les matins. C'est comme si c'était ça l'histoire, puis tu l'acceptes. C'était hyper absurde. C'était jouissif parce que c'était absurde. T'sais.
Non, puis c'était plus la morale du film, et puis l'humour, et puis la morale du truc qui te reste à la fin. Mais oui, non, le fait qu'on n'explique jamais pourquoi,
ouais.
Tu cherches même pas.
C'est comme la métamorphose de quelqu'un en 24 heures, mais ça lui prend 224 heures pour passer à un autre état, tu sais.
Ouais, mais moi, j'ai eu aucun problème avec ça. T'sais, à aucun moment, j'ai commencé à chercher pourquoi. Attends, mais comment c'est possible que les extraterrestres vraiment... aussi avancés, soit aussi belliqueux, puis ils veulent à tout prix détruire tout le monde dans des morts violentes.
C'est là que t'es dans un film puis que t'es pas dans un roman, là, aussi, d'une certaine façon, là, dans
c'est
le
vrai.
Film...
En passant, un super beau design d'extraterrestres, j'ai trouvé.
Est-ce que c'est...
J'ai adoré le design des créatures extraterrestres.
Mais ça,
j'ai
aimé toute la direction artistique,
ouais,
moi.
Moi aussi, beaucoup.
Les
exosquelettes, les armures, etc. Il y avait un petit... Il y a une petite réminiscence de... Surtout au niveau du son, d'ailleurs, de Aliens.
Ben, il y a des hommages à Alien dans les armures, comme tu disais. Ouais. Les extraterrestres, le physique des extraterrestres, quand on voit leur face, rappelle un peu Alien, ça, c'est ça. C'est Neil Lamont qui a fait toutes les Harry Potter.
Superviseur des... Oui, juste. Puis, superviseur des effets visuels. Mais,
qui a fait aussi The Avengers, donc c'est pas n'importe qui.
C'est pas un minable. Mais belle direction, super belle direction artistique, quoi. Vraiment, j'ai beaucoup aimé ça.
On n'en parle pas souvent de la direction artistique, je
trouve. C'est vrai.
Puis je trouve que c'est tellement un métier important pour donner l'ambiance et tout, parce que tu sais, surtout dans un film de science-fiction. Puis, ben, je dois dire, Oblivion, que j'avais pas aimé, il y avait une très belle direction artistique.
Oui, magnifique. Ouais, magnifique. Moi, je dois dire que j'avais trouvé pas si mal, moi.
Je sais que tu avais aimé ça. Ouais. Mais bon.
Parce que après avoir entendu votre descente en flamme du film, je me suis dit, mais ça peut pas être aussi mauvais que ça quand même. Enfin, puis je l'ai vu, ouais, effectivement.
C'était, lui,
je
c'était
ça,
justement sexiste. Les personnages féminins, ils étaient complètement en talons hauts, ouais, vrai, constamment.
Ouais. Ça, c'est vrai. C'était le côté. Mais bon, j'avais bien aimé le reste de l'histoire des clones et tout ça. Mais
que c'était une copie de Moon, puis que t'avais comme.
Oui, bah, c'est très loin de la qualité de Moon, on est d'accord.
Ouais, ouais, c'est ça. Mais genre, quand Moon vient
mais
d'être fait,
trouvé ça cool.
Quand ça fait même pas 10 ans qu'un film est sorti, puis qu'il fait super bien, pourquoi t'essaies de le faire, mais comme moins ouais. bien, t'sais. Tu me feras pas dire du bien d'Oblivion. Sauf pour la direction artistique qui était ouais, très belle.
C'était très belle, t'sais. C'est vrai.
Même Tom Cruise, il avait l'air plus vieux dans Oblivion que dans.
Oui.
Parce que dans Oblivion, il joue un personnage plus jeune en plus, puis sa blonde, elle a comme 23 ans. Moi, Emily Blunt, elle a comme 30 ans, là. Puis elle joue, ils sont pas nécessairement amoureux, tu sais, ils sont pas nécessairement love interest, ils le deviennent dans le courant du film, mais ça prend
ouais,
pas toute la place.
C'est-à-dire qu'elle l'embrasse à la fin. D'ailleurs, il paraît que la scène a été improvisée, c'était pas prévu.
Ok.
Puis elle dit un truc qui est drôle parce qu'elle pourrait tout à fait le dire au réalisateur. C'est, elle lui dit genre, I did it because I felt like it, so I did it. Elle dit un truc comme ça, tu sais. Ça pourrait presque être un dialogue off camera, tu sais. Mais ça, c'était, ouais, improvisé.
Ouais,
mais je trouve
elle dit à Tom Cruise en le regardant, genre.
Ouais, ouais. Mais je trouve qu'ils sont pas tombés dans la romance.
Mais non, c'est ça.
Typique qu'il y aurait pu avoir
mais non,
dans
ce
genre
tout.
De duo, tu sais.
Pas du tout,
parce
ils ont une
vivent
quête.
Des trucs tellement intenses ensemble.
Ils
mais
ont
non,
une quête, ils ont une mission. C'est tout est là. Tout
c'est
est là-dedans.
Tu sens
t'sais.
Que lui, au bout d'un moment, il a de l'affection pour elle, mais que tu
mais
comprends.
C'est normal. Oui, il la connaît. Ouais. Elle meurt à chaque jour dans ses bras.
Exactement. Donc, tu te comprends complètement comment il se sent. Donc, c'est logique, finalement, s'il y a il commence à y avoir un petit intérêt amoureux. Mais il ne tombe pas dans le truc sirupeux, là, dans le truc
exact.
Bonbon, machin. Jamais, et heureusement.
Oui, exact.
Et ça, je trouvais très chouette. Et non, vraiment, franchement, j'aime beaucoup, beaucoup ce film. Quoi.
Si la dernière partie avait été un petit peu plus forte...
Ouais, c'est vrai, ça traîne. Il y a un truc, ouais, toute l'arrivée à Paris, et à partir de l'arrivée à Paris,
ouais,
l'arrivée
à Paris.
Ça part un peu en n'importe quoi.
Puis pourtant, il y a peut-être parce qu'ils ont manqué un peu leur référence. C'est drôle, j'ai vraiment le feeling que c'est trop noir. Tu sais, cette scène-là, elle aurait été faite le jour, elle aurait peut-être été plus intéressante.
Peut-être.
Mais tout, ok, une autre affaire dont on n'a pas parlé, c'est évidemment toute la référence au débarquement de Normandie. D'ailleurs, c'est sorti le 70e anniversaire.
Oui, j'ignorais ce truc-là, j'ai lu ça dans le trivia.
Le 70e anniversaire du débarquement de Normandie ou de notre affaire?
Le 6 juin. Le 6 juin
D-Day Invasion during. D-Day, c'est le.
Ouais.
C'est la, c'est D-Day Invasion during World War II.
Et le nom de l'opération Downfall, c'était... comment ça s'appelle? C'était une opération qui devait être menée contre les Japonais, mais qui ne s'est pas produite, parce qu'après, il y a eu
Hiroshima.
Il y a eu Hiroshima et Nagasaki. Mais c'était un projet de...
Parce
de
qu'ils ont
une opération.
Nom,
ouais, ils ont
nom.
Pris ce nom-là.
Ce que de le fun, en fait, c'est que c'est un film ben, américain. Est-ce que c'est une coproduction britannique? Je ne sais pas, mais ça commence à Londres.
Dans un film américain.
Puis ça se passe constamment en France, tu sais.
Ouais.
Bon, on n'entend pas de français du tout, là, tu sais. Mais ça reste logique, c'est les autres Américains qui débarquent et tout. Mais tu sens un peu la France, quand même, dans le petit village.
Ouais, ça roule en Citroën et en Renault.
Exactement, tu sais, t'es pas du tout dans la campagne américaine. Puis c'est tellement rare, tu sais, qu'ils font ça.
C'est rafraîchissant, en fait.
Oui, oui, c'est toujours agréable quand tu vois que ça sort. Tu sais, que le truc gros se passe pas.
Ouais, à Los Angeles.
Los Angeles, Chicago, San Francisco, ou New York, tu sais. Puis même les Américains...
Ou alors dans un de ces
même les Américains,
américains
on vient de nommer les comme quatre villes où est-ce que quelque chose se passe. Tu sais, jamais rien à Boston, jamais rien qui arrive à Miami, jamais rien qui arrive à Dallas. Il faut toujours se passer dans ces quatre villes-là, tu sais. Sauf si c'est une série télé, mais encore là.
Ou alors c'est un petit film obscur, tu sais.
Ou
des choses
obscur,
qui se passent dans
là,
une
comme...
petite ville.
Et même... Non, c'est comme... Puis tout le côté hommage...
Ouais.
Mais je ne sais pas si c'était dans la manga. Est-ce que ça venait du japonais ou ça se passe au Japon, lui?
Ça se passe au Japon.
Ça se passe au Japon, il n'y a rien qui se passe. C'est pas...
non,
lui aussi,
si je me rappelle bien, ça se passe au Japon.
Lui aussi aurait pu avoir le même... Parce que les Japonais adorent la France, là, tu sais.
Mais lui, ouais. Par contre, ce qu'il n'y a pas en tout cas dans le manga que j'ai lu, il n'y a pas toute l'histoire que le gars, c'est un minable, un déserteur, machin. Ça non, il n'y a pas. Dès le départ, tu fais la connaissance de Rita, quoique dans le film aussi, en fait, finalement. Parce que tu vois des affiches, tu sais, où elle est affichée, le Full Metal Beach.
Puis elle-même, elle parle dans les médias, on la voit dans les télé-TV, là.
Ouais, c'est parce que c'est celle qui a sauvé, c'est l'ange de Verdun, machin. Par contre, dans le manga, elle a toujours son pouvoir.
Ah.
Elle a toujours son pouvoir.
Donc elle aussi se réveille.
Et elle sent qu'il y en a un autre qui a ce pouvoir. C'est comme ça qu'elle connecte avec lui. C'est comme ça qu'ils se rencontrent.
Mais si elle a son pouvoir, ça veut dire qu'elle a meurt.
Justement, au bout d'un moment, elle se rend compte que la seule manière qu'il y arrive à tuer l'Oméga, c'est si elle meurt. Tant qu'elle est vivante, ça ne peut pas se passer. Donc elle se sacrifie, au bout d'un moment, elle se sacrifie pour que lui puisse aller tuer l'Oméga, etc.
Mais c'est compliqué parce que les deux ont le pouvoir de renaître.
Ouais, enfin, c'est un peu fucking.
Parce qu'en fait, c'est un drôle de pouvoir parce que le pouvoir qu'il a fonctionne sur une journée dans l'espace-temps.
Ouais.
On est d'accord?
Ouais.
Donc à la fin de la journée. Ben, en fait, on le sait pas, tu sais, mais si j'ai bien compris, c'était juste une journée. Puis il mourait dans cette journée-là, puis il revenait. Mais ouais. Mettons qu'il aurait vécu plus qu'une journée, est-ce que.
Mais c'est le cas après, parce qu'il arrive à survivre. Non, c'est pas vrai, non. C'est tout se joue en quelques heures. En fait.
Toujours, toujours la même journée. Ouais. Parce qu'à chaque fois.
Ouais.
En tout cas, c'est le feeling que j'ai vu quand j'ai vu le film, tu sais, que c'était toujours une journée, puis que. Mais c'est vrai, c'est un petit peu bizarre.
J'aime bien aussi cette journée où tout à coup, il est plus sur le champ de bataille. Il est dans un bar.
Ouais,
et puis il entend les civils parler de l'invasion et tout ça. Puis, ouais, genre,
ça se passe mal parce qu'il devrait être en train de.
Ouais. Et puis, bah, pour finir, tout le monde meurt pareil. Mais je veux dire, j'aime bien que tout à coup, il y a ce changement, tu sais, où genre, il a décidé de. Il s'est barré. Puis...
Et ça, c'est pendant qu'il est en train de s'entraîner. Hein?
Ouais, je crois aussi.
Puis il revient.
Ouais.
Donc, c'est comme si au moment où
ça lui fait comprendre autre chose, etc. Ouais.
Ouais, c'est ça. Puis il prend conscience que s'il fait rien, ben, c'est la fin du monde.
Ouais.
Il gagne, là.
Et non, c'est vraiment, vraiment. Moi, je. De nouveau, là, je te dis.
Toute cette partie-là est bien faite. Tout le moment qui rappelle le film Groundhog Day dans cette idée-là est super bonne. Ouais. Puis c'est vrai que moi, j'ai trouvé ça plate, la scène d'action, parce que là, c'est linéaire, etc. Ouais. Parce qu'on a quitté cette espèce de petit fun qu'on a qui dans Groundhog Day, il est là jusqu'à la fin. Là. Ouais. La dernière journée, c'est juste un petit peu plus longtemps, mais tu vois, c'est tellement hilarant parce que là, il faut qu'il court pour aller sauver la vie de 5 personnes. Puis tout le monde lui dit bonjour, puis tout le monde le connaît. Puis la fille est comme, quoi, tout le monde te connaît? Puis là, il joue du piano, tu sais. Mais t'es conscient que tout ça est en lien avec le fait qu'il connaît tout. C'est ça qu'ils ont raté avec la fin. C'est qu'à la fin, il aurait dû nous montrer un build-up où est-ce que la dernière journée... En fait, c'est ça le problème. C'est que là, il se passe trop de choses qui n'ont pas rapport avec le fait qu'il l'ait fait plusieurs fois, tu sais.
Ouais.
Puis ça aurait été plus intéressant que ce soit le super gars qui, jusqu'à la fin... Mais là, à la fin, tu le fais total, là, ce petit côté-là que je te montre que je suis vraiment en contrôle de la situation que je l'ai vécu 1000 fois, là, tu sais.
Ouais, c'est vrai.
Ouais.
J'arrivais pas vraiment à cibler c'était quoi exactement le problème. Mais ouais, effectivement, ça peut peut-être se situer à ce niveau-là.
Ouais, puis tu commences cette scène-là, puis t'es comme genre, oh, je sens que ça va être une scène d'action. Puis moi, j'avoue là, que le truc que j'aille le plus des films d'action, là, c'est cette scène-là.
C'est
le feu d'artifice, là, où est-ce qu'il envoie toutes les... Même les feux d'artifice, ça m'énervait, le moment où est-ce que... Ben, je l'attendais avec impatience, c'est pas vrai, mais... En fait, c'est pas vrai, c'est le moment que j'aimais des feux d'artifice. T'as plein de petits feux d'artifice qui vont dans tous les airs.
Ouais.
Puis là, t'as la dernière explosion.
T'as la grande finale.
Ouais. Puis là, t'en as comme plein, mais dans le cinéma d'action, moi, ça m'énerve toujours parce que c'est comme.
Parce que tu la vois venir. Ouais, il y a un moment, il y a le.
Ça va venir, ça va être long, il se passera pas.
10 minutes avant la fin où tu la vois là, ou 20 minutes, je sais pas quoi, où tu la vois venir. Ouais.
Puis là, tu vois, là, puis moi, j'avoue que je suis vraiment peut-être fifille pour ça, mais il y aura pas d'action, il y aura pas de dialogue pendant ce temps-là, il y aura pas de développement des personnages, il y aura pas d'émotion, ça va être genre. Bang, 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 pouf, pouf, pouf. Ça va être une espèce de jeu vidéo non-stop, tu sais. Puis, non, moi, je débarque beaucoup dans les films d'action. Souvent, les films d'action me perdent, là. Il y a bien sûr des exceptions, là, comme Gravity, que j'avais adoré parce que je trouvais que... Mais c'est tellement magistral, tout ce qui se passait, c'était magistral, là, tu sais. Mais typiquement, donc, là-dedans, c'est encore plus agaçant parce que, je sais qu'ils font cette grande finale d'action-là, qui est le classique qu'on doit faire dans un film d'action. Puis qu'en plus, ils n'ont pas utilisé tout le build-up qu'ils avaient mis. Puis c'est probablement ça qui rend le film un petit peu moins intéressant, qui fait en sorte que dans 25 ans, on n'en parlera peut-être pas d'Edge of Tomorrow. Puis quand on va parler de films comme ça, on va encore parler de Groundhog Day. Et peut-être un autre film qui aura été fait dans cette formule-là.
Ouais. Mais tiens, regardons un petit extrait, puis après, on va parler encore de quelques petites choses.
There's a mimic. Buried 20 yards away, and it attacks when you start the engine.
Get your weapon and get in the helicopter, Cage.
There's more in the field back there. Only one of us ever makes it.
Get in.
The only thing we haven't tried is a version where you walk away. Just go back to the farmhouse. There's a cellar, there's food. You wait there till I get back. You'll be safe.
I'm a soldier. I volunteered. I'm not walking away.
You die here. Right here. I can't save you. And if I go on and kill the Omega, you're dead. Forever.
Why does it matter what happens to me?
I wish I didn't know you. But I do.
Il y a du monde qui critique pas mal le fait que ça ressemble à du jeu vidéo. Moi, je trouve ça assez intéressant, finalement. Le côté... le côté game over, ou le côté, tu sais, tu dois arriver à quelque chose, puis tu vas mourir 15 fois avant d'y arriver.
Ouais, parce qu'il est
pratique. Mais chaque fois, tu vas un peu plus loin, parce que tu sais qu'à tel endroit, il y a ça, puis à tel endroit, il va y avoir ça. Donc, tu évites les obstacles, puis tu continues un petit peu plus loin.
Comme la scène qui roule en dessous du camion.
Ça, c'est tellement drôle. C'est tellement drôle.
What were you thinking?
Mais je trouve super drôle qu'ils aient gardé ça, tu sais. C'est super intéressant qu'ils montent ça.
Ouais, parce que c'est ça, jouer à un jeu vidéo. Un jeu vidéo, c'est exactement ça.
Ouais,
exactement. Tu essaies de comprendre le jeu, puis à un moment donné, tu essaies plein de niaiseries, puis là, ah, non, ici, je meurs, parce que puis à un moment donné, tu deviens super habile, puis tu...
Ouais.
Puis ça rend très crédible.
En plus, ouais, c'est ça.
Ça.
Ouais.
C'est...
Moi, j'ai beaucoup aimé ces petits instants où il meurt, tu vois son erreur, puis tu comprends pourquoi il est mort, et il la refait pas la deuxième fois, ou en tout cas, tu sais pas combien de fois il y a eu entre deux, mais parce qu'il a dû la pratiquer 3-4 fois. Mais
comme quand il s'entraîne avec elle, puis qu'il arrête pas de se faire comme tabasser, puis ça marche pas et tout. Ouais. Là, tu vois bien là, qu'il faut qu'il le fasse plein de fois pour.
Ah ouais, puis au bout d'un moment, tu le vois arriver là-dedans, puis c'est bon, là, genre, il tue tout le monde, enfin, toutes les espèces de robots Alice, là, en moins de deux.
Oui, les pulvérise, là.
Je trouve ça pour aller droit au but, droit vers elle, tu sais, genre...
Ah, puis qu'est-ce que t'as pensé du petit personnage du scientifique qui est comme un rôle secondaire qui apparaît? Il est pas pire!
Ouais, il est pas pire, ouais.
C'est qu'il monte dans le sous-sol.
Il est crédible aussi, ouais. Il en fait pas trop... Non, moi, j'aime bien son petit personnage acteur que je trouve sympa aussi, que j'ai vu dans plein d'autres films. Je peux pas te citer quoi. Je pense dans Harry Potter, certainement.
Ah, mais ça se peut.
Mais je l'ai vu dans plein d'autres trucs. Mais non, bien aimé ce personnage-là. Il y a aussi la classique.
Les personnages secondaires, en fait, tous les personnages secondaires, ils ont tous des petits rôles qui reviennent. Sont...
Le sergent Bill Paxton, tu sais, petit clin d'œil à Aliens aussi avec Bill Paxton. Tu sais, lui, j'ai toujours énormément de plaisir à le voir parce que c'est un acteur que j'aime beaucoup. C'est cool de le voir avec son petit smirk, tu sais, son petit sourire en coin, là, tu sais, où il est comme son petit sarcasme, où il se fout de la gueule de Tom Cruise. J'adore, je trouve ça excellent. Même si le, et puis tu sais, le groupe de son sa comment on appelle ça,
sa
petite compagnie ou sa petite troupe là.
Ouais c'est ça.
Qui sont un peu clichés aussi, tu sais, genre la gang de badass là. Y a un petit côté cliché, mais finalement ils sont assez sympathiques, surtout quand quand ils commencent à revenir vers eux, puis il leur dit à tous des choses qui... Ils sont tous surpris parce qu'ils connaissent tellement de choses sur chacun d'eux, tu sais.
Oui.
Puis ils sont tous, genre, ils se regardent tous l'un l'autre, genre, mais comment est-ce possible?
Ils sont un peu plus ordinaires, en fait, que j'aurais aimé, mais en même temps, c'est plus crédible aussi qu'ils soient ordinaires. Parce que, tu sais.
Ouais, parce que tu tombes très, très vite dans le cliché. Tellement vite dans le cliché.
Ouais.
Je viens de voir un film avec Arnold, là, qui s'appelle Sabotage, qui est un film d'action. C'est un film policier, là. Il joue le boss d'une équipe d'un espèce de SWAT team, enfin, un espèce de... Ouais, une espèce de groupe d'intervention, mais de la DEA, tu sais, du Drug Enforcement Agency. Et ils sont tellement clichés, tu sais, mais tellement clichés, tu sais. C'est tous les gros badass qui étaient gros lourds, vulgaires, tu sais, tatou, machin, etc. Il y a un côté horriblement cliché. Et je suis content que là, dans Edge of Tomorrow, ils ne soient pas tombés là-dedans.
On peut dire une chose d'Edge of Tomorrow, ils ont évité les clichés. Ils ne sont pas rentrés dans les clichés. Il n'y a pas les clichés de la guerre. Tu sais, le général là, qui doit convaincre plusieurs fois, tu sais, c'est super drôle, ça arrive dedans. Mais au début, tu es sympathique à ce général-là parce qu'il est tellement fendant. Donc, tu comprends que quand il revient quelques heures plus tard pour dire « Là, il faut que tu me donnes ton arme secrète qui est dans ton coffre-fort », il soit comme... Tu sais, que ça soit dur de le convaincre.
Ouais.
Ça, t'imagines que ça a pris plusieurs jours de... puis tu sais, c'est le fun parce que c'est comme un cliché, le général. Mais tu sais, d'habitude, typiquement, le général cliché, c'est le général qui est comme méchant puis qui empêche le héros. Comme si...
Ouais, qui va mettre des bâtons dans les roues du héros.
Du héros, pas sous prétexte qu'il faut suivre le protocole, la hiérarchie. Ouais. C'est le personnage du père que toi, en tant qu'enfant, tu comprends pas ses règles, tu sais, puis que finalement, tu vas le transcender en devenant un adulte, puis tu vas avoir raison, tu sais, genre le toujours le personnage du paternel qui veut pas lâcher sa paternité puis qui a tort, tu sais. C'est ringard, le papa ringard, tu sais. Mais là, là-dedans, ce que j'ai trouvé le fun, c'est que non, tu sais, je veux dire, au début, t'es comme d'accord avec lui, t'es comme genre, you're going for it, là, tu sais, t'es fait, mon gars, là, tu sais. Ben, tu sais, je veux dire, c'est pas facile, là, de nos jours, de surfer sur autre chose que des clichés.
Non, surtout dans un film d'action comme ça, tu sais, militaire, machin, invasion extraterrestre.
Avec beaucoup d'action. Puis tous les petits moments touchants où est-ce que, genre, il lui dit, tu me racontes ça, puis tu me racontes ça, puis là, elle regarde, elle dit, je te raconte pas ça, tu sais, puis c'est le premier jour qu'elle le voit, puis lui, tu commences à sentir qu'il s'attache à elle en lui disant, tu m'as parlé de beaucoup de choses, puis je sais ça, puis elle regarde un air à dire... c'est agaçant, tu sais. C'est agaçant d'avoir quelqu'un que tu connais pas qui lui te connaît, tu sais.
Non, vraiment, c'est un film. Puis c'est un film qui est plaisant à revoir parce que justement, tu remarques, c'est toutes des petites choses que tu redécouvres. C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, tu sais, comme que peut-être parce que le principe du film joue là-dessus, c'est le fait que tu recommences cette journée. Tu revois le film avec plaisir, tu sais, même si tu commences à le connaître par cœur, tu découvres plein de petits détails comme ça qui sont super intéressants.
Oui, c'est ça, tu as envie de revoir ça.
Ouais, vraiment bien écrit.
Un autre film dans cette formule-là, parce que je cherchais des autres films dans cette formule-là, donc on a dit Source Code, on a dit Groundhog Day, mais on pourrait mettre Memento.
Memento, c'est pas tout à fait la même chose dans le sens où c'est quelqu'un qui vit sa journée à l'envers. Enfin, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu découvres sa journée, enfin, l'histoire à l'envers.
Oui, mais lui, il revit toujours, il repart toujours à zéro, il est toujours resetté. Parce qu'il se rappelle pas 20 minutes plus tard.
Lui, il se rappelle des dernières. Comment ça fonctionne déjà?
Il se rappelle les dernières 20 minutes.
Les dernières 20 minutes, c'est ça.
C'est ça. Donc, constamment...
Donc, tu reviens petit à petit en arrière. Tu reconstruis l'histoire.
Je sais que c'est différent, mais il y a quand même cette idée-là du personnage. En fait, c'est l'inverse, tu me diras, Memento. Memento, c'est l'inverse. C'est le gars qui oublie, puis qui...
Oui, qui doit reconstruire sa réalité à partir de bribes, de souvenirs...
Lui, tout recommence. Tu sais, genre, toute sa vie, ça, elle recommence constamment, tu sais. Toujours reset, mais il l'oublie. Puis, elle repart toujours du point de ce qu'il connaît, tu sais. Mais il y a quelque chose dans cette espèce de loop-là.
Il faut que je revoie Memento, ça fait super longtemps.
C'était bon, ça.
C'était très, très bon, ouais. Je me rappelle avoir adoré ce film-là.
Ben, tu sais, Christopher Nolan, c'est quand même pas n'importe quel réalisateur, là. C'était le film qui l'a lancé. Sinon, j'essaie de trouver quel autre film fonctionne dans cette formule-là, parce que c'est assez rare, ce gimmick-là de... Dans notre, ben c'est ça, on est dans notre truc de voyage dans le temps, tu sais, mais même dans les films de voyage dans le temps, t'as pas vu ça beaucoup. Parce que même, tu sais, j'ai tout écouté Doctor Who, puis j'essaie de penser à un épisode. Il y en a sûrement un, là, les gros fans de Doctor Who qui ont écouté la série 5 fois vont me dire, ben voyons, Marie-Louise, il y a cet épisode-là. Mais j'essaie de voir un épisode où est-ce que le docteur reviendrait plusieurs fois en arrière. Je pense que c'est même interdit. Il peut pas réinteragir avec lui-même, mais tu sais, est-ce qu'il pourrait faire un truc où est-ce qu'il... Puis il meurt pas, tu sais. Ouais. Le docteur va pas mourir, donc il voyage dans le temps, mais là, la particularité de notre voyage dans le temps, c'est que le temps recommence à la mort du personnage, puis il recommence tout le temps pareil. T'sais, on n'est pas dans un voyage dans le temps classique comme on avait... Mais tu sais, dans 12 Monkeys, il revenait un peu, mais il revenait à des moments différents. Puis dans le dernier qu'on a fait, qui est... Tu vois, j'ai déjà oublié notre dernier film qu'on a fait.
C'est la trilogie Back to the Future.
Ah, mon Dieu! C'est pour ça que j'ai oublié, je cherchais quelque chose de beaucoup trop compliqué. La trilogie Back to the Future, oui, c'est ça, c'est comme il y a de l'humour, puis c'est le classique voyage dans le temps où est-ce que tout ce que tu vas faire va affecter le futur, puis il faut que tu défasses, puis tu es dans le paradoxe, puis finalement, tu t'amuses juste à te promener dans les époques, puis à foutre un peu le bordel, puis à rire de, tu sais, comme on parle du troisième, puis du deuxième. Mais dans lui, c'est ça, c'est comme une forme un petit peu intéressante. Je sais pas si on va faire, si on aurait intérêt à faire Source Code à ce moment-là, puisque c'est le même.
C'est le même principe. Ben, évidemment, la fin, ben, tu découvres des choses à la fin qui sont pas les mêmes, mais.
Est-ce que la finale de Source Code est plus. est plus original, là.
Oui.
Tu sais, toute la proposition de science dans Source Code est beaucoup mieux construite.
Je pense. Je pense aussi. On va pas en parler là parce que c'est pas
un jour, peut-être dans quelques années, on fera Source Code, mais peut-être pas dans cette série-là.
D'ailleurs, si vous l'avez pas vu, voyez-le, ça vaut le coup.
Oui. Moi, les fans de science-fiction, ils doivent...
il y a un truc très intéressant.
Ça fait partie des films de science-fiction qui est intéressant parce qu'il y a comme... Il y a une sorte d'intelligence dans le... Ben, puis le réalisateur de Moon, là, qu'on n'avait pas détesté du tout. Là.
Ouais.
Là, on est moins dans l'action dans Source Code. On est plus dans le trailer.
Ouais.
C'est un trailer de science-fiction. Plus, qui est beaucoup plus original.
Ouais, parce que finalement, oui, c'est, tu pars d'une explosion dans un train. À chaque fois que l'explosion se passe, lui, il recommence ce moment depuis le début.
Ouais,
et il essaie de trouver pourquoi, qui fait ça, pourquoi.
Et c'est un moment très, très court. Là.
Ouais.
Lui, il ne vit pas une journée complète. Je pense que c'est 20 minutes.
Ouais, c'est un truc comme ça.
Ouais. Puis il est perdu à chaque fois qu'il se réveille. Il y a comme des moments transitoires, on lui pose des questions, puis qu'on ne comprend pas trop. Tu sais,
c'est super intéressant. Ouais. Mais en tout cas, Edge of Tomorrow, franchement, moi j'aime ce film. Voilà. Même avec tous les défauts qu'il a, j'aime ce film vraiment. Et j'ai toujours autant de plaisir à le revoir.
Bien joué, solidement joué par Emily Blunt, qui est vraiment extraordinaire. Ouais, Tom Cruise, on l'aime parce qu'au début, il est son anti-Tom Cruise. Belle évolution du personnage, beau clin d'œil à son rôle d'héros qu'il doit construire dans ce film-là. Ouais. Dans ce film-là, il doit prouver, il doit devenir le héros qui est dans les autres films automatiquement. Bonne histoire, agréable, tu t'ennuies pas en regardant le film.
Non, pas du tout. Puis c'est beau, c'est bien réalisé, c'est bien...
Ouais, ben, c'est des gens de métier.
Les effets
là,
sont très beaux. Ouais, non, il y a une belle équipe derrière et c'est ça. Mis à part cette fin qui est plate, c'est...
Mais moi, j'aurais envie de dire aux gens... que c'est pas ça qui va leur gâcher le plaisir.
Non, c'est ça. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça ne gâche pas le plaisir du film.
C'est dur aujourd'hui de finir les films à gimmick.
Ouais.
Parce qu'il faudrait toujours que les fins soient... comme Usual Suspect. En plus, c'est le gars qui écrit Usual Suspect.
Il y a une version de scénario où il y a une fin beaucoup plus noire.
Qui est comme dans le manga, finalement.
Qui est probablement comme dans le manga.
Ben, comme dans le roman, c'est-à-dire.
Mais
J'ai lu la fin qui est décrite dans le roman. Puis j'avais entendu dans Slash Film, il parlait. Mm-hmm. Puis ça ressemblait à être ça, là. Dans cette fin-là, Rita meurt, puis lui, il survit. Puis il n'y a pas de retour, comme il n'y a pas cette loupe-là qui revient, tu sais.
Il ne fait plus de loupe à la fin. Une fois que l'autre meurt, il continue sa journée, finalement. Le temps continue.
Mais il y aurait quand même, je pense, un film vraiment intéressant à faire sur cette idée-là d'espèces extraterrestres qui manipulent le temps puis qui viennent fucker chien sur les races humaines, mais peut-être pas dans un truc comme ça de « je viens de tuer puis c'est la fin du monde », tu sais. Comme juste quelque chose un peu plus...
plus cérébral, tu veux dire?
Ben... peut-être plus ludique, tu sais, plus perplexant, quelque chose de plus genre film d'horreur inquiétant, tu sais, que tu comprends pas pourquoi.
Ah, ok, ouais.
Que là, tu te réveilles justement, puis t'as comme pas compris. Peut-être même que ça pourrait être des créatures bénévolantes qui essaient d'amener. Tu vois, j'ai un scénario qui serait intéressant, c'est que les êtres humains vont s'autodétruire, puis ils arrivent à empêcher de peine et de misère ça, puis ils font revenir toute l'humanité, mais avec une conscience, tu sais. Donc, l'humanité sera à un point où est-ce qu'ils vont se détruire. Imagine, c'est la guerre nucléaire mondiale, OK? C'est le dernier jour, puis tout le monde le sait, tout le monde réalise ce qui se passe. La planète va exploser, puis tout d'un coup, pouf, reset, tout le monde, toute la planète revient un mois plus tôt. Qu'est-ce qu'ils font, là? Tu sais, les discussions, les machins, etc. Comment ça se fait qu'on est là?
De faire à tout prix d'essayer d'empêcher ça à tout prix.
Ça serait bon, ça. Tu vois, le truc qui commence, c'est la dernière journée sur Terre. T'as tous les personnages, puis t'établis tes personnages. Hey, je pense que mes amis producteurs en ligne, là, je vais écrire un scénario, mais je l'aime, mon idée.
Ouais.
On regarde-tu le processus créatif de Marie-Louise en ligne, là? Vous n'avez pas le droit de m'avoler, là. Je le dis en premier aujourd'hui, là. Bon, c'est pas grave. Si vous m'avolez, vous avez. Si dans 3 ans, j'ai rien fait avec ça, là, puis qu'il n'y a pas un scénario, vous m'appelez, je vous la donne. Okay? Je me donne 3 ans pour écrire mon histoire.
Bon, et est-ce qu'on a pas mal dit tout ce qu'il y avait à dire sur le film? Je pense, ouais, on a fait le tour.
Ouais,
c'est pas mal ça.
Ouais. En tout cas, on a fait beaucoup de discrétion, comme d'habitude.
Ouais, ça va. Pas tant que ça.
On pourrait toujours parler. La musique m'a pas frappée, en fait, pour être franche.
Non,
avec toi,
plus.
J'ai pas la toune dans la tête.
Non, je ne m'en suis pas rappelé non plus.
On a bien fait le tour, je pense, de Edge of Tomorrow.
J'ai bien aimé les petits clins d'œil à l'origine japonaise en fait de l'histoire avec le, tu sais, le système opératif de l'exosquelette qui est en japonais.
Ah oui.
Et puis aussi le fait que, tu sais, Rita, elle se bat avec un espèce d'énorme sabre.
Oui.
Qui ça sort tout droit du... Je sais pas si c'est dans le roman, mais en tout cas, ça sort tout droit du manga.
Mais...
Là, dans le film, là, il ne donne aucune explication de pourquoi elle a cette espèce d'énorme sabre qui est typiquement japonais, typiquement que tu vois dans les mangas, dans les jeux vidéo, etc., des jeux vidéo japonais. Puis en fait, l'explication dans le manga, c'est qu'elle arrivait chaque fois à court de munitions avec ses espèces de fusils mitrailleurs qu'elle a sur son suit. Elle arrivait chaque fois à court de munitions qui faisait que c'était pour ça qu'elle mourait à chaque fois. Donc elle a cherché à se faire une arme indestructible ou du moins extrêmement solide qui venait jamais à bout de munitions.
Qui
venait jamais à bout. Donc c'est de là que ça vient. Et j'aime bien, c'est pas du tout expliqué dans le film, mais tu t'acceptes juste parce que elle a un look super badass avec son énorme sabre. Ça marche totalement. Puis
peut-être un mot de la fin, je regarde dans les trivia que le filmmaker décrit ça comme une rencontre entre Grog,
Groundhog Day et Starship Troopers.
Et deux films dont on a abondamment parlé.
C'est ça.
J'ai mentionné Starship Troopers, puis on a dit qu'on en avait trop parlé déjà. Mais ouais, c'est ça.
Ouais, c'est ça. Deux films à revoir d'ailleurs. Starship Troopers, faut qu'on le fasse. Moi, j'aime beaucoup ça.
Oui, ben oui. Puis parlant de refaire, qu'il faut qu'on le fasse, qu'est-ce qu'on fait la prochaine fois?
Oui, ben écoute, on avait fait une espèce de pseudo-liste dans l'épisode précédent.
Il y avait Donnie Darko.
Ouais, dans l'épisode précédent, je me souviens plus dans quel ordre, mais je l'ai quelque part.
Je sais que j'ai beaucoup insisté pour que tu écoutes certains épisodes de Doctor Who. Et là, j'aurais potentiellement des invités qui sont des gros
connaisseurs de Doctor Who.
Des gros connaisseurs de Doctor Who. Puis quand j'ai dit ça, elle était vraiment full excitée à l'idée de venir parler de Doctor Who.
Okay.
Donc, on va voir s'ils accepteraient vraiment de vivre l'aventure. Mais je sais que toi, tu n'as pas vu Doctor Who. Donc, ce que je vais faire...
Non, j'ai rien vu du tout. Le problème, c'est que moi,
c'est que je vais faire la liste des épisodes à écouter. OK? Je vais te faire une liste, je vais te dire, d'écouter ces épisodes-là.
Moi, je pense qu'avant ça, on avait peut-être, si je me trompe pas, on avait peut-être parlé de Donnie Darko.
Il y avait Donnie Darko. Ou...
Donc peut-être ça avant, parce que moi, à vrai dire, je suis encore très occupé jusqu'à peut-être la fin du mois d'octobre.
Oui, puis tu as tapé la série.
Mais je ne sais pas si j'aurai le temps de me taper tout ça.
Tu pourrais écouter quand même, on pourrait se concentrer sur 5 épisodes, là, de 1 heure.
Je pense qu'on
là.
Avait dit une dizaine d'épisodes, peut-être.
Oui, c'est ça. Puis tu sais, moi, je prends les meilleurs, puis je pourrais demander à mon comité d'experts quel épisode eux autres aimeraient parler, puis on pourrait comme faire, au moins comme ça, tu écouterais les meilleurs épisodes de Doctor Who, puis la genèse n'est pas très compliquée. C'est pas super compliqué à comprendre. Là. Je pourrais comme t'expliquer un petit peu, en gros, c'est qui Doctor Who, ça vient de où, les éléments importants à savoir. Là, moi, j'ai pas écouté tous les épisodes des années 70, puis il y a plein de références qu'on comprend assez après. Mais ça, c'est un incontournable. On peut pas faire un podcast sur la science-fiction, dans une lancée sur le voyage dans le temps et ne pas parler de Doctor Who.
Doctor Who, c'est clair.
Donc,
qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que la fois prochaine, on ferait Donnie Darko, à moins qu'on ait une autre idée? Il y avait Looper.
Looper pourrait être intéressant.
Il y a Source Code. Mais Source Code, comme on vient de dire, c'est très semblable. Il y a quelque chose de très semblable.
Tu sais, il y en avait un que tu m'avais parlé qui était comme un film un petit peu plus petit, mais qui était intéressant. C'est Primer.
Primer, on a parlé de Primer.
Ça serait bien. Mais je ne l'ai pas vu, Primer, mais ça, j'en ai régulièrement. On pourrait écouter Primer, voir ce qu'on veut. Terminator. Mais moi, je le ferai en dernier, Terminator, parce que ça pourrait nous amener ailleurs. Ouais. Bandit de Terry Gilliam. Mais on en a fait beaucoup de Terry Gilliam, là.
On en a fait...
Piggy Sue s'est marié, mais ça, c'est pas de la sci-fi. Donc, moi, j'irais peut-être... Looper me fait un peu penser au film qu'on vient de faire, dans la qualité du film... je veux dire, des vedettes, film américain, film d'été...
Non, Looper a un petit...
2012...
Pour moi, Looper a un petit côté indie.
Non, mais je veux dire...
Ça me plaît bien.
Oui, c'est moins... c'est sûr que c'est moins studio.
Oui, il y a Bruce Willis, mais...
C'est moins studio,
Il y a ce petit côté indie de Rian Johnson que j'aime bien.
Bah, c'est dommage que Olivier soit encore à Toronto, parce que je dois admettre que...
Et lui, il n'aime pas ce film.
Ah, il n'a pas aimé, ça aurait été le fun de... de l'avoir avec nous. Mais là, je m'en vais à Toronto. Si on décide de faire Looper pour la première fois, je pourrais peut-être l'enregistrer.
Alors, qu'est-ce qu'on dit? Est-ce qu'on dit Looper la prochaine fois ou est-ce qu'on dit Donnie Darko?
Gardons la surprise.
Surprise!
On va se décider.
OK. Parce que je sais qu'on avait, articulé une liste précise la dernière fois.
Peut-être si je m'en vais en plus au TIFF.
Mais ouais, je sais que tu t'en vas.
Peut-être qu'au TIFF, je vais voir un film de voyage dans le temps puis je vais te dire faut qu'on parte de ça.
Ouais. OK. Donc, comme voilà, tout le monde peut changer d'avis, ben, on va dire que ça va être la surprise la prochaine fois. Mais en tout cas, il y a quelque chose dans l'air, là.
Mais la fois d'après, on va s'être organisé pour que tu écoutes du Doctor Who.
Ouais, puis qu'on puisse faire du Doctor
Who. On va le travailler, cet épisode-là.
OK. Et sur ce, Marie-Louise, si on veut te retrouver sur les internets,
ça se passe plus sur Facebook de ces temps-ci. Je dois admettre que moi, je rentre dans ma saison... vraiment malade mental de l'automne, où est-ce que je passe des journées à travailler, puis je me dis j'ai hâte que ça se calme, tiens, puis ça se calme jamais.
Enfin, en tout cas, t'es Marie-Louise Gariepi sur Facebook.
Ouais, c'est ça, puis j'avais eu un petit si vous voulez me friender et tout, parce que des fois je vois des gens que je connais pas qui me friendent, mais juste m'écrire aussi pour mentionner je t'écoute sur Network. Je vais vous ajouter comme ami, c'est sûr, ça va me faire
c'est
plaisir.
Cool.
Je vais de temps en temps sur mon Twitter, donc vous pouvez aussi aller essayer de me voir là, mais là il se passe pas grand chose sur Marie-Lou Gariepi sur Twitter.
D'accord. Moi, je suis sur Twitter, sur Steadynik, STEADINK. Puis je suis aussi sur, Nicolas Petzilas sur Facebook. J'y suis pas souvent, mais ça m'arrive d'aller jeter un coup d'œil et de friender des gens.
On est l'inverse. Toi, tu t'occupes de Twitter, moi je m'occupe.
Ouais, c'est ça. Et puis, eh ben, sinon, bien sûr, vous pouvez vous abonner à ce podcast en allant sur notre site 24quarks.com ou sur iTunes. Et puis, n'oubliez pas de nous laisser un petit commentaire, un rating, n'importe quoi. C'est toujours bien partout, ça, surtout sur iTunes. Et puis, sur Twitter, @24quarks, toujours avec un S à la fin. Et puis, la page Facebook, bien sûr. Et pour nous écrire, c'est toujours 24quarks@gmail.com. On se quitte sans bonne annonce parce qu'on n'a pas encore fait de choix. Donc, ça sera la surprise pour
ça
la prochaine
fois. Le thème musical de 24quarks.
Ok. Et ben, une fois de plus, merci de votre fidélité et on se retrouve très très bientôt. Bye bye. Programme complet. Get away from her, you bitch! Shall we play a game? 24 secondes. Pa-da-ba-pa-da-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-p